I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais bien sûr qu'on s'aime. Bonjour à tous, vous êtes sur le rendez-vous jeu. Je suis Patrick Béja, on parle de PC, de console, de mobiles, de mobile et de bise et de news et d'industrie et d'analyse. Et on est en janvier 2021. Et on est dans l'épisode numéro 168. On commence l'année sur les chapeaux de roue avec deux invités resplendissants. D'une part, l'ami Jika qui se joint à nous pour ce premier épisode de janvier. Comment ça va, Jika Loret ?
Yes, très content. Ouais, je suis content de revenir. C'est la nouvelle année 2021. Ça va être une année. Allez, ça va être une année incroyable. On y croit. Et bonne année déjà à toi, Patrick. Bonne année au chat. Bonne année à tous nos auditeurs. Voilà.
Bonne année à tous et surtout bonne année à Daniel Andreev qui est là avec nous aujourd'hui aussi. Kamui, comment ça va? Est-ce que ton année commence bien?
Meilleurs vœux. J'ai honte de le dire, mais 2020 n'a pas été trop shitty pour moi parce que j'ai eu un enfant. Mais je tiens à dire aux gens de ne pas se focaliser sur la haine de 2020 parce que ce n'est pas 2020 le problème. C'était l'année du rat. Et à partir de l'année du rat, c'est à ce moment-là que ça a merdé, en fait. Parce que avant, c'était l'année du cochon, tout allait bien. Mon fils est né sous l'année du cochon, c'est pour ça que je dis ça. Bien et sûr. À partir de l'année du rat, genre vers fin janvier, c'est là que ça a commencé à merder. Donc voilà, c'est juste, je voulais apporter cette petite précision. Donc officiellement, pour moi, on n'a pas changé d'année. Il faut attendre la fin de l'année du rat. Parce que,
alors,
comme vous
c'est
le voyez,
quoi l'année suivante là,
je n'ai aucune idée, je ne connais pas le calendrier. Par contre,
écoute.
Par contre, je peux te dire quelque chose, c'est qu'il y a un nouvel an à fêter quasiment tous les mois, puisqu'il y a le nouvel an russe dans, je ne sais pas quand les gens écouteront ça, mais dans 5 jours, il y a le nouvel an russe. Il y a toujours un nouvel an à fêter, donc c'est toujours un bon moment pour repartir à zéro.
Tout à fait. Et donc, on se doute bien qu'à partir de janvier, les choses iront beaucoup mieux. Mais déjà, elles vont un petit peu mieux. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai annoncé il y a quelques jours à peine que j'attends un enfant, un nouvel enfant, un deuxième pour avril. Donc, ceux qui pensent que, du coup, ça veut dire une année catastrophique, ont l'esprit bien noir et pas du tout. Au contraire, ça sera merveilleux. Ça va amener quelques perturbations dans les émissions, peut-être, en avril. Mais c'est...
Une année fatigante, en tout cas, catastrophique, non. Mais...
fatigante certainement, oui. J'ai un petit peu peur, mais bon, on verra.
Moi, je veux juste dire que 2020 n'a pas été complètement pourri non plus parce que Jika est venu dans mon podcast After Eight et merci de m'avoir prêté Jika. Franchement, à une somme dérisoire, franchement, par rapport à la valeur de Jika.
Bon, surtout par rapport à ce que me paye Patrick, oui, je vous ai fait une fleur.
franchement, je me suis pas fait berner du tout. Non, on était ravis d'avoir Jika une fois. Et j'espère que ça se reproduira parce que je suis sûr qu'on aura l'occasion de parler de teraflop et de trucs comme ça que je vis. Ah.
Écoutez, moi, je suis certain que l'année 2021 va très, très bien se passer. Les choses commencent bien. Si on fait abstraction des derniers, comment dire, petits crachotis de 2020 au Capitole à Washington, ça, c'est juste la fin. C'est la fin des problèmes. Maintenant, le ciel bleu s'ouvre devant nous et c'est en partie... grâce aux Patriotes que je peux vous l'annoncer. 2021, année extraordinaire. Et aujourd'hui, j'aimerais remercier les Patriotes qui financent l'émission, qui me permettent d'amener ma voix jusqu'à vos douces oreilles. J'aimerais remercier Notvalou, Baptiste Baron, Obiseb, The New Workers Podcast, Pasini, Nicolas Emidi et Vincent LCVZ, ainsi que les formidables producteurs de l'émission qu'on remercie à chaque épisode, Lancelot Davizard et Chulrac. Merci à vous en particulier et merci à tous ceux qui soutiennent et qui écoutent l'émission. Si comme eux, vous voulez peut-être soutenir l'émission, envoyez un petit peu de sous à cette émission qui vous distrait, qui vous amuse, j'espère. C'est sur patreon.com/rdvjeux. On en parlera un petit peu plus dans un moment. Mais de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler évidemment de 2021, de ce qu'on attend. On va également faire un petit résumé rapide de ce qui s'est passé ces dernières semaines pendant qu'on était en vacances. D'ailleurs, j'en profite pour préciser, si vous n'avez pas écouté les deux épisodes spéciaux des vacances, l'épisode des jeux de l'année 2020 et en particulier l'épisode bilan de l'année, de la génération précédente de consoles, qui est un petit peu long mais qui résume à peu près tout ce qu'il fallait retenir de cette génération. C'est un épisode communautaire qu'on a fait avec les auditeurs qui participent au Discord, qui ont accès au Discord privé. Et c'est vraiment un super bon épisode. Donc, je vous encourage à aller les écouter. Les deux, bien sûr, étaient de très grande qualité. Mais alors, de quoi on va parler aujourd'hui? De 2021, peut-être j'ai envie... Bon, c'est un petit peu une classique hein, de parler de ce qu'on attend pour l'année à venir, mais ça ne veut pas dire qu'on va se dérober. On va essayer de dire ce qu'on attend et ce qu'on pense qui va arriver, peut-être en risquant de se planter et de se ridiculiser. Mais je me demande si je ne vais pas poser la question en premier à JK, tiens, pour me défausser un tout petit peu. Qu'est-ce que... Il y a plusieurs catégories, hein. Il y a les jeux, il y a les événements, il y a le matériel, il y a les rachats, il y a les évolutions de l'industrie. Si tu devais parler, on va dire, allez, on va en faire une à la fois, un truc dont tu penses que ça va marquer 2021, que ça soit un jeu ou un événement de l'industrie, qu'est-ce que tu vois arriver?
Alors, j'y réfléchis parce que tu m'en as parlé un peu hier et c'est vrai que je pense que cette année, bon bah l'année enfin 2020 c'est évident, c'est la sortie des nouvelles consoles, en tout cas pour l'industrie ça a été vraiment le lancement de la nouvelle génération. Du coup, en général, traditionnellement, après un lancement de console, l'année d'après est plutôt calme en fait. Ça veut dire, on va dire, l'arrivée des premiers gros jeux exclusifs, j'imagine, en tout cas sur la Xbox Series et sur la PS5. On en parlera peut-être, j'imagine que quelqu'un va en parler potentiellement une nouvelle Switch, donc là on serait sur une nouvelle génération chez Nintendo. Après moi ce que je suis curieux de voir c'est est-ce qu'on va avoir progressivement ou pas du tout un retour des salons physiques, puisqu'on n'a pas eu de salon physique évidemment l'année dernière, tout a été virtuel. On a eu cette espèce de truc qu'ils ont appelé, je crois, Summer of Gaming, c'est ça? Ça a duré pendant 2 mois.
C'était... conférence. Alors, le Summer of Gaming, c'était vraiment une initiative de branding Jeff Keighley. Et au final, ça n'a pas voulu dire grand-chose. Hein. C'était une idée intéressante, mais ça n'a pas donné grand-chose.
Et c'est vrai que... Alors, moi, titre personnel, je pense, en tout cas pour le 3 en juin, ça me paraît un peu tôt parce que surtout la situation aux États-Unis est loin d'être rose. Faudra voir après ce que ça va donner pour la Gamescom donc en août et le Tokyo Game Show en octobre. Je suis malheureusement assez pessimiste. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire non mais c'est super les salons virtuels etc. Moi à titre personnel je crois que ça me manque un peu de pas au-delà du fait de pouvoir me rendre sur place, de pas avoir cette espèce de d'émulsion qui va durer de manière plus courte mais très intense. Moi les conférences de 3 j'adore ça, mais j'aime bien quand ça dure 3 jours tu vois et pas un mois quoi.
Bah, je crois que, comme on le disait déjà cette année, c'était clairement un échec la manière dont les conférences de cet été ont été organisées. Je pense qu'il n'y a pas eu de hype qui s'influençait l'une l'autre et donc qui a fait monter tout le monde. Je crois, comme toi, que l'E3 ne va pas se passer en physique, c'est à peu près sûr. Mais par contre, je pense qu'ils vont... En tout cas, ils ont une opportunité à l'ESA pour relever la barre. Je ne sais pas quelle analogie je cherche, mais reprendre les choses en main... et organiser un truc virtuel, certes, mais ramassé sur une semaine auquel plusieurs éditeurs participeraient. Alors, il n'y aura pas le pendant physique, à moins qu'ils n'organisent les choses bien et qu'ils fassent des choses en petit comité ou en streaming ou en virtuel. Mais moi, je crois qu'il va y avoir un truc ramassé sur une semaine, 10 jours, qui va réunir la plupart des gros éditeurs, mais pas en physique. Mais pour la plupart des joueurs, ça ne va pas changer grand-chose au final. On n'aura pas les impressions des hands-on des journalistes qui y seront. Encore que s'ils jouent en streaming ou en virtuel, comme ça s'est fait un peu l'année dernière, ça pourrait donner quelque chose. Mais oui, moi, je crois que ça va changer.
À titre de comparaison, c'est vrai que, par exemple, nous par exemple, chez JVCom, on a eu pas mal de présentations à distance, évidemment. On n'est que ça, en fait, littéralement. Et on a eu quelques trucs où on pouvait jouer à des jeux en streaming à distance.
Tout à fait.
Et le truc, c'est que ça clairement pas le même intérêt. Alors, je te parle pas d'aller à 1500 bornes pour jouer à une une demi-heure à un jeu, c'est plus par rapport notamment à la qualité graphique des jeux, c'est-à-dire que tous les, par exemple, toutes les previews qu'on a pu faire de Cyberpunk, par exemple, se sont fait en streaming à distance, et c'était très difficile de se rendre compte de la qualité graphique du jeu sur un jeu.
Ça a bien réussi, hein.
Bravo, bien joué.
Voilà, non mais. Et donc c'est vrai que ça a pas le même impact par rapport au fait que tu sais que tes jeux, t'as un développeur avec toi qui est à côté, tu peux lui parler. C'est quand même pas la même chose, quoi. C'est, malgré tout, c'est pas la même chose. Les salons, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de business aussi. Donc
bah,
voilà.
Ça sera et
surtout.
Ça sera forcément pas la même chose, mais il y a des moyens d'y pallier un peu. Moi, je crois que Cyberpunk, s'ils avaient voulu, si ça avait été en physique, ça aurait pas changé énormément. C'est-à-dire que là, vous y avez joué en streaming, vous y aurez joué en vrai. Ils auraient sélectionné la section à laquelle vous pouviez jouer de toute façon. Ils auraient joué sur gros PC dont on sait qu'il marche quoi qu'il arrive. Et puis les bugs, on serait dit oui, bon, le jeu est encore sorti. Moi, j'ai participé à l'alpha fermée de Diablo Immortal, on avait un Discord dans lequel traînaient les développeurs et ils étaient curieux de voir nos retours sur nos tests. Il y a peut-être des moyens de ce type-là de simuler un petit peu ces interactions. Ça sera jamais la même chose, c'est sûr, mais il y a des moyens de mieux faire les choses que juste on n'a pas de trois, tu vois.
Ah non, mais ça je suis d'accord. Et ils ont essayé quelque chose cette année parce que il a fallu organiser quelque chose de manière très très rapide. Enfin, la façon dont l'industrie s'est adaptée du jeu vidéo, c'est quand même assez dingue en fait d'avoir réussi à maintenir tout ça, à lancer des consoles, etc. Malgré le contexte, c'est complètement, en vrai, c'est complètement fou. Mais par contre, c'est vrai que alors j'ai pas vu ça passer comme info, mais est-ce que quelles ont été les retombées médiatiques, est-ce que c'est les retombées médiatiques attendues? Je suis pas sûr.
Moi je crois que le problème venait surtout de le problème venait surtout de l'étalement. C'était étalé comme une trop fine couche de confiture, donc c'est pour ça que je me dis ils vont ramasser ça sur une semaine, 10 jours, et là il y aura une hype qui va prendre. Mais bon.
Et juste pour terminer sur ce sujet, on pense forcément à des très gros, à Sony, aux constructeurs, à Microsoft, à Activision, etc. Mais on oublie les tout petits éditeurs, les indés qui en général dépensent énormément d'argent pour se rendre pour se rendre à un salon, pour espérer un peu avoir un peu de visibilité, etc. Là c'est très compliqué parce qu'ils peuvent pas se permettre d'organiser un événement virtuel dont malheureusement la plupart des médias vont passer à côté parce que ce sera pas prioritaire, et pour moi c'est ça le vrai problème de l'absence d'événements physiques comme ça, c'est le petit jeu que tu vas découvrir au hasard d'un stand alors que tu ne serais pas arrêté, et ça c'est vraiment dommage pour les petites structures, quoi.
Moi, je crois qu'il y a des possibilités, là encore, de pallier à ce manque. Si c'est ramassé sur une semaine, tu trouves un jour, une période de 2 heures où il n'y a rien, et tu mets ton stream à ce moment-là, tu peux faire quelque chose. Là où c'est plus problématique encore, c'est pour les rencontres business, quoi. Mais là, peut-être qu'il y a... Enfin, c'est-à-dire qu'il y a plein de développeurs qui montent leur jeu à des éditeurs, qui vont prendre, signer pour le publier ou pas, etc. Là, peut-être que c'est possible sur Discord, mais oui, ça va certainement être plus compliqué. Daniel, est-ce que toi, il y a une chose que tu attends ou que tu remarques sur l'année 2021?
Alors, il y aura des choses que je vais dire au fur et à mesure de l'émission, mais pour moi, la principale, c'est salut, moi, je m'appelle Daniel et j'attends Elden Ring depuis qu'il a été annoncé.
Ah ouais, non mais ça...
Et en fait, il y a rien d'autre. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent m'exciter, mais Elden Ring, c'est ce qui m'excite le plus, et c'est ce dont on parle le moins. Oh là, non. Ils avaient fait les Games Awards, ils avaient vu le jeu le plus attendu de l'année, Elden Ring. Genre, il y avait aucune autre mention d'Elden Ring dans les médias pendant toute une année.
C'est sûr.
Et il y a juste, Elden Ring. Par contre, il excite les gens. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut obtenir. Ça rappelle qu'Elden Ring, c'est le jeu produit par Miyazaki. Qui n'a pas produit de jeu depuis mars 2019, puisque c'était Sekiro. J'attends ça un peu comme le Messi. En plus, c'est G.R.R. Martin qui semble-t-il a retrouvé sa machine à écrire pour écrire quelque chose.
On ne sait pas. On a juste vu un trailer. Oui. Ça se trouve, ils attendent toujours le script chez From.
un trailer. Tu rigoles. On a vu une petite CG, mais genre on serait cru sur. L'ère PlayStation 2 où tout le monde s'excitait sur trois images de synthèse à la noix. Ouais. Des images de synthèse, ma foi, fort jolies, mais on s'en fiche. L'important, c'est que Miyazaki travaille sur un jeu vidéo, et ça, c'est quelque chose qui m'emplit de joie. Pour
et puis surtout, surtout juste pour rebondir, pour rebondir sur Elden Ring, on ne sait pas du tout ce que c'est. Si ça se trouve, ça sera un jeu différent des Soulsborne habituels.
Ah, ouais. Ah non, non, mais moi,
ça sera quelque chose de un autre style de jeu, quoi.
C'est pas grave, je veux ça dans mes veines directement. je veux pas prendre, je veux pas de bypass, je veux directement ça dans
très
mon
bien,
cerveau.
Très bien, très bien.
Et pour rebondir sur ce que disait Jika, c'est vrai que bah, les salons, ça va changer évidemment. Moi, le seul salon où je vais, à part le Paris Games Week, moi, c'est le Tokyo Game Show. Et alors, vu que les Japonais ont vraiment bien géré les histoires de Covid, parce que bon. Les gens, ils sont passés en mode DEFCON 5 alors qu'ils ont 3000 cas par jour. Et les gens se disent, mais pourquoi ils sont passés en DEFCON 5? J'ai envie de dire, parce que sans doute, les autorités, ils savent la vérité. Sans doute, c'est, ils ont, c'est le truc du Japon, en fait. Ils ont, enfin, c'est un secret positionnel. Ils ont fait zéro test au cours de l'année pour être sûr que les chiffres soient bas pour les Jeux Olympiques. Pas de bol, les Jeux Olympiques, ils arrivent. Il y a moins de, je sais quoi, 180 jours là avant les Jeux Olympiques. Donc du coup, c'est la panique. Je ne pense pas qu'il y aura de Tokyo Game Show cette année là. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je vois pas ça arriver. Par contre, je pense qu'il faut être positivé et il faut voir quelque chose. Il faut voir ce qui est bien. Et ça nous permet d'avoir des vidéos de Sakurai tout seul chez lui qui nous présente des personnages de Smash Bros. Et ça, tu vois, c'est mon kink. C'est mon kink. Genre, vraiment, je pense que je regarderai ça avec plus de bonheur que beaucoup d'autres films. C'est Sakurai qui t'explique la mécanique, voilà. Alors, et en plus, ce qui est bien avec Sakurai, c'est qu'il est très franc. Il raconte il dit, ouais, moi, le perso de Minecraft, je le sentais pas parce que je sentais que c'était beaucoup de boulot. Mais à Nintendo, ils ont dit, tu devrais le mettre, c'est quand même le jeu le plus vendu du monde. Et Sakurai, il raconte ça avec beaucoup de franchise. C'est génial, hein. Vraiment. Je pense que c'est ce qui m'a apporté le plus de joie d'un jeu vidéo cette année. Tout super confondu, c'est Sakurai qui parle de Minecraft. Et tout d'un coup, qui parle de Sephiroth, alors que Sephiroth, on l'attendait plus parce qu'on sait que ça a été vraiment dur de gérer Cloud. Et moi, je me disais jamais ils remettront un personnage de Final Fantasy. Et là, Sephiroth s'est invité dans Smash Bros. Donc, il nous reste encore trois persos de Smash Bros.
Potentiellement trois interventions de Sakurai de chez
Nintendo. Alors, en plus, on peut les doubler parce qu'il y a le trailer d'annonce et ensuite il y a Sakurai pendant une demi-heure qui t'explique la mécanique de jeu. Bah, écoute, honnêtement. Ça fait au moins trois raisons de se réjouir cette année en 2011. Voilà ce que j'attends en 2011. J'ai aussi d'autres choses qu'on va attendre de mieux, mais j'ai vu que dans le sommaire, tu parles de nos jeux de vacances et tout. Je pense que je vais pouvoir rebondir dessus.
Alors oui, les jeux, c'était les jeux des vacances de Noël, mais moi, j'ai d'autres choses dont je voudrais vous parler aussi. Je vois peut-être différemment les événements de 2011. Bien sûr, il y a plein de jeux qu'on attend, à la fois chez Sony avec Horizon Zero Dawn, God of War. On va voir s'il va sortir cette année ou pas, mais c'est possible. Il y a peut-être d'autres choses qui vont être annoncées. Il y a des first party chez Microsoft.
On a dit bon jeu, on a dit bon jeu, on a dit bon jeu, Patrick.
D'accord, je ne vais même pas relever. Il y a Halo qui soulève beaucoup d'interrogations, mais qui devrait sortir cette année.
Pareil.
Bon jeu, peut-être que Nintendo va annoncer des choses. Mario Odyssey 2, peut-être Mario Kart 9, etc.
N'oubliez pas que Breath of the Wild 2 qui a été annoncé. Alors, on ne sait pas
justement,
quand il arrivera.
J'y viens. Au niveau des jeux qu'on attend, tu as mentionné Elden Ring. Il y a l'autre jeu que tout le monde attend et que tout le monde qui donne des sueurs froides et des envies à tout le monde, c'est Silksong. Évidemment, tout le monde l'attend également. Il y a quelques sujets que je vais évoquer rapidement, mais je vais m'arrêter sur un autre. Mais quelques sujets, au-delà de la question de ce qui va se passer avec le Game Pass, le streaming qui va arriver sur iOS, potentiellement sur PC, peut-être même sur console, qui serait assez pratique, on en reparlera à un moment. Les rachats de studios qui vont peut-être continuer avec Microsoft qui doit racheter des studios en plus et peut-être des studios japonais, c'est très possible. Sony qui va peut-être s'y mettre également, on en parlera tout à l'heure. Nintendo a fait des mouvements dans ce sens-là également. Peut-être un Game Pass-like annoncé par Sony. Ils avaient indiqué que ça pourrait arriver bientôt. Et qu'est-ce que ça pourrait être? Ça serait très intéressant d'en discuter. Est-ce que ça serait certains jeux, les gros jeux qui sont dispo le mois de leur sortie et puis après qui en ressortent pour en revenir après? Je ne pense pas qu'ils fassent exactement comme le Game Pass, mais il y aurait des choses à faire là. Ça, c'est hyper intéressant à discuter aussi. Apple TV, spécial gaming qui pourrait arriver dans les mois à venir, et le l'Apple Arcade, qui est un service hyper intéressant, mais qui souffre d'un déficit de visibilité assez important, moi je pense qu'il ne serait pas impossible que si Apple se concentre encore un petit peu plus sur le gaming, ils se mettent à nous sortir des Apple Direct pour parler des jeux qui sont disponibles sur l'Apple Arcade. D'autant plus s'il y a une Apple TV un peu boostée qui se concentre sur le gaming avec une nouvelle manette, etc. Ça pourrait donner quelque chose.
Mais tu sais, l'Apple tendance... Gaming, l'Apple Gaming, excuse-moi Patrick, on en parle. C'est quand les jeux de l'Apple Gaming sortent sur Switch, en fait.
Mais exactement.
Quand Shinsekai est sorti sur Switch, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Les gens m'ont fait, mais ça vient de iOS. Et le jeu est super, hein. Heureusement que j'y ai pas joué sur iOS parce que je me serais fait chier sans manette et tout ça.
Mais tu peux jouer avec une manette, hein, mais...
Mais pardon pour mon langage. Ouais, non, mais bon,
Soyons sérieux. Mais tu sais quoi, il n'y a pas que lui. The Pathless était dispo au lancement d'Apple Arcade et j'ai l'impression que tout le monde l'a découvert quand il est arrivé sur les consoles.
Oui, c'est ça. Bah ouais, The Last Campfire, c'est pareil. C'était inclus sur l'abonnement Apple Arcade, donc le dernier jeu d'Hello Games. Ouais, il y a énormément de super jeux qui sortent sur Apple Arcade. Mais oui, c'est ça.
C'est ça
5€ par mois et c'est 5€ par mois et t'as accès à tous ces jeux-là. C'est une sorte de Game Pass version Apple. Alors ouais. Avec des jeux très très indés, il y a évidemment pas d'énormes triple A, mais il y a quand même des très bons jeux qui sortent. Mm.
Et s'il y avait Street 5, on l'aurait su. Hein, mais
évidemment, il y a un manque de visibilité qui est assez assez dommage. Et peut-être que c'est aussi la faute d'Apple qui met pas ce service en avant. Je sais pas.
Bah, je crois que Apple Direct sur YouTube directement, c'est pas totalement impossible, ça pourrait arriver s'ils se concentrent un petit peu plus sur le gaming. Il y a d'autres tendances, et je vous promets, on va arriver au gros sujet que je voulais évoquer, mais la Chine, à mon avis, c'est pas forcément uniquement 2021, c'est peut-être 2021 et au-delà, genre 2021 et au-delà, mais ça va commencer en 2021. La Chine va commencer à compter de plus en plus, je crois, dans le jeu vidéo occidental, et possiblement une tendance initiée par... pas Breath of the Wild, l'autre qui lui ressemble, pas Phoenix Rising.
Genshin Impact.
Voilà, Genshin Impact. C'est-à-dire les jeux mobiles qui sont également sur console et qui sortent en même temps sur les deux, parce qu'évidemment, les Chinois jouent beaucoup plus sur mobile et l'Asie en général joue beaucoup plus sur mobile. Mais Genshin Impact et Miono a montré qu'on pouvait faire des choses qui marchaient sur les deux. Et je crois que c'est un succès qui est trop énorme pour l'ignorer et pour ne pas essayer de le reproduire. Et on sait que la photocopieuse en Chine, ça marche bien. Donc, il y a, à mon avis, des choses qui vont aller dans ce sens-là.
Je veux juste dire un truc, c'est que dans Gaijin Dash qu'on fait avec Puyo et Greg sur Gamekult, j'avais déjà dit ça, mais il ne faut pas prendre de haut les jeux chinois parce que je pense Non, je ne dis pas que tu veux prendre de haut, mais je pense que moi-même, je faisais l'erreur. Je pense que l'industrie chinoise va nous surprendre au fur et à mesure, parce qu'au début, moi aussi, je me dis « Ah, qu'est-ce que c'est que ces jeux qui sont des copies ? Qu'est-ce que c'est que ces faux King of Fighters ? Qu'est-ce que c'est que ces faux bidules ?» Alors... Et en fait, au fur et à mesure, je me suis intéressé un peu au sujet. Il y a des vraies écoles de game design en Chine où on les apprend. Il y a les écoles de game design où on leur apprend à faire des Dynasty Warriors. Il y a les écoles de design où on leur apprend à faire des jeux d'aventure. Il y a les écoles de design où on leur apprend à faire un truc. Et ça, c'est une industrie qui se nourrit au fur et à mesure de ce qui s'est fait en Occident, c'est vrai, mais qui, au fur et à mesure, va trouver son propre groove. Et ça, c'est évident qu'au bout d'un moment, je ne sais pas quand, mais un jour, on va avoir le Sekiro chinois et il va souffler tout le monde. C'est évident, avec le nombre de gens, avec le nombre d'artistes et l'impact du business en Chine, c'est évident. C'est juste que je me dis, faut pas sous-estimer l'industrie chinoise. Après, le reste,
en fait, j'ai eu un terme malheureux qui était celui de la photocopieuse, mais c'est exactement ce que je dis, en fait. Quand je dis la Chine va commencer à prendre sa place dans l'industrie du jeu vidéo, y compris en Occident, c'est de manière tout à fait, enfin, pas flatteuse, mais pas de manière sans dénigrer. Au contraire, quand je disais la photocopieuse, ce que je voulais dire, c'est que le business model de Genshin Impact est trop important pour être ignoré. Et quand je disais photocopieuse, c'est la copie du business model, c'est-à-dire de ce qu'on peut sortir des jeux sur mobile et sur console en même temps et toucher les deux marchés en même temps et de manière tout à fait réussie. Et j'irais même jusqu'à dire que Genshin Impact, même s'il y a très clairement une inspiration de Zelda, c'est très réducteur et à mon avis erroné de dire que c'est juste une copie de Zelda. C'est pas le cas et c'est un jeu qui a sa qualité.
J'ai joué à une bonne dizaine d'heures, même un peu plus, à Genshin Impact. Ouais. Et c'est fascinant. En fait, voilà, je comprends que c'est pas exactement ce. Il y a trop de trucs, il y a trop de gacha pour moi. Moi, je suis pas un mec à gacha. Ouais. Je déteste les notions d'aléatoire, de payer quelque chose pour avoir un machin. Mais par contre, c'est un modèle économique assez intéressant. Et surtout, c'est fascinant en tant qu'observateur de voir une proposition qui plaît à plein de gens et de voir comment ça va évoluer. En termes d'études de business, tout le monde, c'est ce que je dis à tous les gens qui travaillent dans l'industrie, jouez à Genshin Impact, regardez comment ces mecs font des millions, parce que c'est ça va être une vraie composante du futur.
Ouais, je pense qu'on est tout à fait d'accord. Et d'une manière générale, la Chine et la présence de la Chine ne va aller qu'en augmentant dans notre quotidien, quoi. Je crois qu'il va y avoir des jeux de la même manière qu'il y a des jeux japonais. Alors, ça va prendre peut-être un petit peu de temps. C'est pour ça que 2021, c'est peut-être encore un peu tôt. Mais je pense que ça va vraiment arriver. Cette génération, ça va être la génération où la Chine va entrer dans notre sphère de connaissances vidéoludiques. Et bon... Le dernier sujet que je voulais évoquer pour 2021, et moi j'y crois vraiment pour 2021, peut-être que je suis un petit peu optimiste, c'est la Switch 2 ou la Switch Pro, dont on entend parler, dont on entend des rumeurs depuis bien longtemps. Moi je crois même qu'elle va sortir possiblement au printemps. Et j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube où je détaille tout ce qu'on en sait et toutes les rumeurs et toutes les infos un petit peu plus solides et mes spéculations sur la machine. Mais moi, je crois vraiment qu'elle va se pointer cette année. D'une manière générale, alors je vais aller très rapidement dans les détails de ce qu'on pourrait attendre, mais je pense qu'il y a évidemment une compatibilité en avant et en arrière avec la Switch. Hein. C'est juste un nouveau modèle de la gamme Switch, de la même manière qu'on avait les DS, DSi, DSi, enfin... les 3DS, 2DS, ce genre de choses. Mais je pense qu'on aura des choses comme de la 4K, peut-être du HDR, peut-être même du DLSS, et qu'il y aura des bénéfices graphiques et visuels qui seront indéniables sur les jeux qui sortiront à partir de la sortie de la console. Peut-être même qu'ils mettront à jour des jeux qui sont déjà sortis, surtout du côté des jeux first party. Et puis, il y aura, je pense également, des gros jeux qui vont arriver avec la console. Tous les jeux dont on n'a plus entendu parler depuis un an, voire plus, que Nintendo avait annoncé, et peut-être d'autres également, à mon avis, ils vont se pointer, et ça va être une explosion Nintendo à un moment en début d'année, avec un gros direct que personne n'attendait, et une sortie d'une console que nous, on se précipitera tous pour aller acheter, qu'on ait eu une Switch ou pas, et je crois que ça va être assez gros. Alors on pense évidemment à Breath of the Wild 2 que vous évoquiez, moi je pense aussi à Metroid Prime 4, peut-être que c'est un petit peu tôt, mais pourquoi pas,
Bayonetta 3. À mon avis, Metroid Prime 4 pas cette année. Hein.
Peut-être pas cette année, mais ça me semblerait pas complètement impossible non plus.
Ça a été rebooté. Par contre, a priori, et ça fait beaucoup, c'est une rumeur insistante depuis un an au moins, c'est la trilogie Metroid Prime remasterisée peut-être, sur Switch.
Peut-être ça, pour préparer la sortie de Metroid Prime 4.
Exactement.
Ouais. Et puis, oui, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Pas de ray tracing, quand même, je crois pas. Mais... Et puis, le processeur, ça serait... ce dont il faut être conscient, c'est que le processeur de la Switch, c'est un Tegra X1 de 2015. Elle est sortie en 2017, la console. Donc, le processeur était déjà vieux. Le X2 est sorti, genre, quelques mois après la console elle-même. Et ils en sont, en gros, au Tegra X4. Donc, ils sont en train de préparer le Tegra X4, le Tegra X3, le Xavier est sorti, et c'est évidemment un saut de puissance incroyable. Et étant donné qu'il y a la nouvelle génération qui est arrivée, et avec elle les nouvelles cartes, et vraiment toute l'industrie est en train de se tourner vers plus de puissance, je crois que ça serait pas impossible que Nintendo se dise bon, même si on a tiré des performances incroyables du X1, à un moment il faut peut-être qu'on avance, et pour que les développeurs puissent sortir les jeux qu'ils développent, enfin certains en tout cas, qu'ils développent sur la génération actuelle, et surtout surtout pour les 2, 3, 4 prochaines années, qu'ils puissent aussi les sortir sur Switch 2 ou Switch Pro. Alors, s'il faut que ça soit rétrocompatible avec la Switch normale aussi, ça risque d'être un petit peu compliqué si c'est des jeux qui sortent sur les nouvelles consoles, mais je crois que ça serait nécessaire.
Moi, j'ai pas de source industrie, tout d'ailleurs, comme on dit, Nintendo ne commente pas les rumeurs. Mais par contre, moi, je vois pas ça arriver. Et pourquoi ? Parce que la Switch se vend encore super bien. Il y a zéro ralentissement des ventes de Switch, mais vraiment genre zéro. Et ça, avec l'impact de Animal Crossing. Enfin, en plus, on parle après Noël, donc tu t'imagines le nombre de Switch supplémentaires qu'il y a sur le marché. Et si tu regardes le top des ventes de chaque pays individuellement, c'est ridicule en fait, ils écrasent tout le monde. Et par exemple, là je prenais le top 30 en fin d'année, la dernière semaine du mois de décembre au Japon, il y a un jeu PS4 et les 29 autres jeux, c'est des jeux Switch. En fait, je pense pas qu'ils en aient vraiment besoin. Je pense pas que c'est une nouvelle console qui aurait besoin Breath of the Wild 2. En fait, ils ont surtout besoin du temps de développement de jeu et c'est pour ça qu'ils achètent des nouveaux studios. La dernière fois qu'ils ont fait un truc comme ça, c'était la New 3DS et qui remplaçait parce qu'ils avaient fait la 3DS XL, la 3DS, ils avaient magouillé un truc. Ça s'était bien vendu, mais c'était des perfusions et tout ça pour avoir Xenoblade, un remake sur New 3DS qui était une version un peu caca, tout ça pour le ressortir après sur Switch. En fait, moi
New 3DS, c'était une 3DS mais plus puissante. C'est pour ça que Daniel fait cette analogie. C'était une 3DS plus puissante que la 3DS, mais il n'y a pas eu de jeu qui exploitait cette puissance. Moi, je crois que ils vont faire la même chose, mais sans faire les erreurs, en fait. Et bon, on verra.
C'est possible, mais honnêtement, ils devraient plus se concentrer sur faire des jeux.
L'un n'empêche pas l'autre, hein.
Ouais, mais je suis pas un ouf de toutes ces nouvelles. Moi, j'ai acheté plusieurs 3DS au fur et à mesure de leur histoire. Je pense que la seule fois où j'ai vu vraiment une amélioration sensible entre un premier modèle et un deuxième modèle, c'était entre la DS et la DSi, en fait. Parce que la DSi, elle proposait vraiment une approche en ligne.
Et la DS Lite.
Oui, voilà. Tout ce qui était DS Lite et la DSi en particulier, où il y avait vraiment des jeux dédiés que tu pouvais que télécharger. Et là, c'était vraiment une super console. Ma DSi, je pense que c'était ma console préférée de cette génération-là. Mais c'est la seule fois, et je te parle, par rapport à ce que Nintendo fait en tant que vente, par rapport à des Animal Crossing, par rapport à des sorties comme ça, c'est du marché de niche. Donc voilà. Je suis pas persuadé que ça arrive tout de suite.
Je pense que ton interprétation n'est pas forcément fausse, mais je crois quand même à la mienne.
Mais j'aime quand tu dis ça.
Ça m'intéresse, voilà.
Et du coup, alors au moins peut-être, comme je le dis dans ma vidéo où je donne tous les détails, entre parenthèses, je ne sors pas juste ça de mon chapeau, hein. Il y a des sources très très sérieuses de médias comme Bloomberg qui ont fait des rapports sur le travail de Nintendo à ce sujet. Et à mon avis, la raison pour laquelle ils sont en train de travailler dessus, c'est qu'ils n'imaginaient pas le succès qu'aurait encore la Switch et que ce genre de choses se travaille 2 ans à l'avance. Et à mon avis, ils travaillent sur cette nouvelle version depuis un bon moment. Et alors peut-être qu'ils décideront de ne pas la sortir parce que la Switch se vend encore, mais je crois qu'à un moment, ne serait-ce que pour en revendre à ceux qui en ont déjà acheté, ça vaudra le coup de la sortir et on sera au premier rang des acheteurs.
Les mecs, ils vendent du Ring Fit, ils sont faits pour 2 générations déjà.
C'est vrai.
Ils n'ont pas vraiment besoin de ça pour l'instant.
Mais alors, le nom. Alors Switch Pro, certainement pas. Switch 2, je pense pas non plus. J'aimerais vous proposer, alors JK bien sûr, mais à Daniel aussi, puisque c'est un connaisseur du Japon, que dirais-tu si jamais elle sort, hein, je comprends que toi tu penses qu'elle sortira pas, si jamais elle sort, que dirais-tu du nom Nintendo Switch Super ?
Super Switch. À Super Switch, ça fait vraiment de belles initiales pour le merchandising.
Mais non.
La Switch Super. En même temps, c'est pareil. Super Switch.
D'accord, ouais. Ok. Tu as peut-être trouvé une faille. Une faille à mon.
Une légère faille. Une légère faille.
Non, mais tu sais quoi, il faut que tu t'imagines que Nintendo, quand ils choisissent un nom, il y a un legal check de fou furieux et il y a bien un mec qui fait les initiales. Tu sais, c'est pas Pokémon, hein. Pokémon où ils se disent, ouais, on va faire plein de noms et on va voir celui qui marche. Non, là, c'est genre, il y a un seul nom à choisir. Mais après, tu sais quoi, on n'est pas parole d'évangile. Si un nom comme Wii U est pu passer les mailles du filet, je pense que n'importe quoi peut. Super Switch peut passer les mailles du filet, ouais. Même Super bah oui, Switch S.
Super. Bon, NSS, Nintendo Super Switch, moi, j'y crois. Bon, écoutez.
Bah oui, mais bon.
Oui. Non, JK, tu voulais ajouter quelque chose sur ce sujet?
Non, je disais que ce serait. Enfin, moi, en vrai, s'il devait y avoir un truc comme ça, ils ont sorti la Switch Lite, la Switch. Donc, on voit bien plus une Switch Pro. Enfin, ça semble être le nom le plus évident. Après, c'est sûr que, comme disait Daniel.
Ils font pas des trucs pour
voilà,
les
on
pros.
Est Wii U, hein, mais voilà, quoi.
Moi, c'est pas pour dire mon amour sur quelqu'un, mais pour moi, je propose un titre, un nom. C'est la JK Switch.
Oh, et là, pas de problème Lego. La JK Switch.
Et là, JK fait un procès et mon gars.
Il faut que je touche un petit chèque, hein. Ouais, excusez-moi. Si je touche un petit
chèque. Et mon gars, le Patreon de Patrick, là, il prend.
De Patrick, ouais.
il prend 10K par an.
Écoutez, on va faire une petite pause. Je regarde l'horaire. Hop, oui, c'est bien le moment. On fait une petite pause pour parler. Du Patreon, justement, puisqu'on me tend la perche. Le Patreon, vous savez, c'est le moyen de soutenir les émissions que je fais. Et c'est toujours un moyen sympathique, puisque non seulement vous pouvez soutenir mon travail, mais en plus, vous avez, d'une part, la fierté, évidemment, de contribuer à une émission que vous appréciez, mais vous avez aussi des bonus sympathiques, comme les épisodes sans pub, sans ce petit passage promo au milieu, avec des timecode pour passer les passages qui vous intéressent pas trop. Vous avez, si vous choisissez certains niveaux, accès au Discord privé, par exemple. Et justement, si c'est le début de la nouvelle année, tout le monde prend des bonnes résolutions, vous pouvez pas partir en voyage parce qu'on est encore confiné. Et donc, plutôt que d'aller acheter des jeux et de vous amuser, peut-être que vous dites, allez, je vais consacrer une moitié de jeu de cette année à soutenir Patrick. Et dans ce cas-là, vous pourrez aller sur patreon.com/rdvtech et j'ai justement une promotion bonne résolution qui fait que le prix, vous avez accès au niveau qui donne accès au Discord privé, aux after-shows, etc., à un prix réduit de 50%. Rendez-vous compte, messieurs, dames. Et non seulement la promotion existe jusqu'à fin janvier, mais elle sera valide tout le temps que vous serez abonné. C'est-à-dire que le prix ne remonte pas à un moment après la fin janvier. Donc, si vous souhaitez soutenir l'émission, il n'y a jamais eu un meilleur moment pour le faire. Non seulement vous pouvez avoir ce plaisir de soutenir l'émission, mais en plus, vous pouvez avoir un petit prix un petit peu réduit en ce moment avec la promo Bonne Résolution. Pas besoin de code ou de quoi que ce soit. Vous verrez sur la page, il y a directement accès à ce niveau de promo. C'est écrit dessus. C'est très, très simple à voir. C'est patreon.com/rdvjeux. Merci à vous tous de soutenir l'émission. Et si vous écoutez l'émission depuis quelques mois, un an ou deux peut-être, et que vous êtes content de voir l'émission arriver dans votre flux de podcast, eh ben pensez-y, patreon.com/rdvjeux, avec la promo qui disparaît à la fin janvier. Et on m'a dit qu'il fallait que je donne un sentiment d'urgence, vous voyez. Donc attention, seulement 3 semaines. Bon, seulement un temps limité. Voilà, on va dire comme ça. Vous n'avez qu'un temps limité. Faites-le aujourd'hui, sinon il sera trop tard. Patreon.com/rdvjeux.
Et je tiens à dire que Patrick est mon senpai. Hein. Régulièrement, il se prend un petit. Je glisse dans ses DM, genre salut Patrick et donne-moi des conseils. Et Patrick est toujours de bons conseils. Hein. Avant que je lance lui-même le Patreon de mes podcasts, on a pris un verre ensemble et tout il m'a expliqué.
Ça me fait tellement plaisir de voir qu'il y a d'autres créateurs qui se sont lancés comme ça. Et je me souviens, c'était il y a quoi, 4 ans déjà ? même plus, 4-5 ans. On s'était rencontrés et puis tu m'avais demandé comment on peut faire pour ci, pour ça, qu'est-ce qui est... Et je vois maintenant que tu voles de tes propres ailes, que tu es un successful creator qui est financé par sa communauté également. Ça me fait hyper plaisir.
On finance... En fait, tout ce Patreon sert à financer d'autres podcasts absurdes. Donc, c'est ça, en fait. Il n'y a pas de miracle. Ma principale source de financement, c'est Twitch maintenant. Moi, je suis un Twitcher. Un streamer maintenant. Ouais.
Mais c'est ta principale source de financement, c'est intéressant ça.
Bah non, c'est-à-dire que bah moi je me rémunère pas, mais par contre Twitch par contre bah ça finance les comme je dis, ça finance les couches du bébé.
Très bien.
Voilà. Ou la crèche, j'ai envie de dire, parce que s'il y avait pas la crèche, mon gars, il y aurait des bruits d'enfants à côté de moi et surtout des bruits de Lego. Et c'est horrible les bruits de Lego. Sorti de leur contexte, franchement, c'est un des. J'adore entendre mon fils jouer, mais alors mon fils secouer des Legos, c'est horrible. Voilà, je tiens à le dire.
Maintenant,
donc
le monde
merci
est au
à
courant.
Tous les patriotes qui permettent de mettre mes enfants à la crèche.
Est-ce qu'on parle des jeux auxquels on a joué pendant les vacances ces dernières semaines? Est-ce qu'il y a des trucs, JK, qui t'ont sauté dans les mains, telle une manette ou une souris excitée? Il y a des trucs qui
bien
t'ont
sûr. Alors, écoute. Figure-toi que oui, ça a été des vacances très très ludiques, hein, très vidéoludiques, puisque en plus j'étais en vacances pendant un bon bout de temps, quasiment 3 semaines, donc j'en ai bien profité.
Alors, je veux faire ton boulot.
Ouais, t'as vu. bref, j'ai eu d'assez longues vacances et voilà, sans grande surprise, j'ai fait Cyberpunk 2077 que j'ai terminé. J'ai fait à peu près 45 heures.
Toujours très content du jeu.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, écoute, ouais, moi, franchement, j'ai vraiment, globalement, dans sa globalité, j'ai adoré l'expérience. Clairement, je pense que si on refaisait mon top de l'année maintenant, Cyberpunk serait dans le top 3.
Ah, carrément, d'accord. Pense.
Ouais, vraiment, il y a... Enfin, bon, c'est...
Il y a deux jeux qui ont été joués cette année.
Non, mais on pourra en parler, évidemment, pendant des plombs, mais...
Bon, on va reparler de Cyberpunk tout à l'heure, mais oui.
Ouais, voilà, bon, c'est un jeu qui a des défauts, il y a surtout beaucoup de promesses déçues, mais il y a un tel travail sur le monde, sur l'immersion, sur le travail sur, globalement, l'écriture. C'est un bon jeu, c'est un jeu très agréable à jouer, mais enfin, maintenant que les patchs, enfin, moi, j'ai surtout sur PC, sont sortis, voilà, le jeu est tout à fait jouable et agréable à jouer. Voilà, donc pour moi c'est vraiment un super jeu. Il y a un autre jeu que j'ai fait et que j'ai pas encore terminé, mais celui-là je suis absolument tombé dedans aussi. C'est un jeu qui est sorti il y a pas longtemps, mais il vient tout juste d'avoir enfin une traduction française, c'est Disco Elysium. Je sais pas si on t'en avait parlé déjà dans les
jeux, mais c'est un jeu de l'année dernière.
Ouais, c'est un jeu de l'année dernière, mais qui était en anglais.
Même dans 2018 même.
Ah, possible.
Non, 2019 de jeu. Je suis à peu près sûr que c'est 2019.
Je crois que c'est aussi.
Non, parce qu'il est sorti, j'étais déjà chez jeuxvideo.com et j'y étais pas en 2018.
D'accord.
Et donc, par contre, alors, bon, en fait, moi, j'avais commencé à y jouer à l'époque en anglais, mais c'est un jeu qui est extrêmement écrit. Il demande vraiment en fait, c'est un jeu où tu passes 80% de ton temps à lire, en fait. Et c'est un niveau d'anglais qui est très soutenu. Donc, bref, du coup, j'avais arrêté pour attendre la version française. Et c'est un vrai régal à jouer. Je pense que c'est un truc auquel on a jamais vraiment joué, quoi. C'est un RPG un peu à l'ancienne en vue du dessus, mais dans un univers qui est complètement original, avec des situations en fait complètement folles, mais quasiment tout passe par le texte. Il y a pas de combat, par exemple, il y a pas de système de combat, que ce soit en tour par tour ou en temps réel. Les moments de combat qu'il peut y avoir, c'est uniquement du texte et des jets de dés, quoi. Mais vraiment, faut aimer lire. Alors, je pense que c'est pas pour tout le monde, mais d'ailleurs, pourtant, moi je suis le premier à en général souffler un peu devant des kilomètres de texte dans un jeu. Là je suis vraiment entré dedans et c'est vraiment un excellent jeu, quoi. Donc voilà, et pour terminer, tiens, pour la blague, mais en même temps, pas tant que ça. Je suis en train de redécouvrir avec un plaisir vraiment énorme Metroid Prime, figurez-vous, sur GameCube,
ah oui,
que je suis en train de refaire. Ouais. Et en fait, je me rends compte d'un truc, c'est incroyable à quel point ce jeu a bien vieilli. Bon, visuellement, évidemment, ça accuse un peu l'âge, mais en termes de maniabilité, c'est un truc assez fou, en fait. C'est un FPS qui se joue d'une manière très différente d'un FPS classique. Et c'est con, mais je prends un énorme plaisir à découvrir ce jeu. C'est encore très moderne, très agréable à jouer.
Lequel auquel tu joues? Le premier?
Metroid Prime. Le premier, ouais, je suis en train de refaire le premier. Et du coup, probablement que je ferai le 2 que je n'avais jamais fini à l'époque parce que j'étais bloqué.
Il suffisait d'attendre encore quelques mois et t'aurais eu la trilogie refaite sur Switch.
Ah, c'est ce que je me dis. Peut-être quand j'aurai fini le premier, je vais peut-être attendre, mais bon, je vais peut-être attendre longtemps. Non, voilà, c'est con, mais voilà, pour le côté rétro, Metroid Prime, je prends beaucoup de plaisir à y rejouer.
Très bien. Et ok, bah écoute, donc Cyberpunk 2077, Disco Elysium et Metroid Prime, à quoi est-ce que tu as joué, varié, toi, Daniel?
Alors, je n'ai pas joué à Disco Elysium, mais je l'ai acheté. Je n'ai pas joué à Metroid Prime, j'ai jamais joué à Metroid Prime, mais je ne l'ai pas acheté non plus. J'attends la version remix aussi sur Super Switch plus X. Et alors moi, mon jeu de cette fin d'année, mon jeu doudou, parce que c'est vraiment ça, c'est Densha Dego, qui est sorti sur PS4, qui est sous-titré Hashiro Yamano Tessen. Et pour paraphraser Jika, il y a un tel travail sur le monde, sur l'immersion, que sauf que lui il parlait.
C'est le cyberpunk de la, ouais, c'est le cyberpunk japonais, enfin japonais.
Alors simulateur, pour expliquer ce qu'est Densha Dego, c'est un jeu d'arcade qui simule un train. Et alors les trains en général se conduisent de deux manières au Japon, donc c'est pas très compliqué, c'est l'accélérateur et le frein. Et c'est absolument fascinant parce que ça me replonge dans la ligne Yamanote, qui est un peu un truc emblématique de Tokyo. C'est une ligne qui fait le tour de toutes les stations principales, presque toutes les stations, avec un point d'intérêt important. Et c'est assez fascinant. C'est un jeu donc Square Enix. Avant c'était Taito, maintenant Taito a été racheté par Square Enix, donc c'est un peu spécial. Pour moi, ma perspective de 2021, c'est bien sûr une manette. Je veux un vrai joystick. Et parce que moi, j'avais le joystick à l'époque de version PS2 et qui était USB, et le jeu ne reconnaît pas le joystick USB. Et je trouve que c'est un vrai scandale parce que mon joystick, maintenant, il vaut sur Amazon, il vaut 200€ maintenant. Et je me dis, merde, il faut que je le revende. Et en fait, non, j'ai tous les vieux jeux. Mais en vrai, Densha Dego, c'est un vrai, vrai plaisir parce qu'ils ont gardé... Il y a un vrai travail qui est fait évidemment sur l'univers, l'environnement, l'immersion, comme dirait Jika. Mais en vrai, il y a aussi l'aspect sonore, et l'aspect sonore restitue le bruit des portes qui se ferment, le bruit de la sonnerie. Tous ceux qui ont été au Japon un jour sont susceptibles de comprendre pourquoi ce jeu est absolument fascinant. Il y a un vrai côté doudou, surtout pour des gens qui, comme nous, n'avons pas pu voyager cette année. Personne n'a pu aller au Japon. Alors évidemment, les gens qui sont au Japon, ça leur parle peut-être, mais en tout cas pour nous qui n'avons pas pu voyager, c'est un vrai petit bol d'air frais, en fait, d'aller là-bas. Un peu comme a été un peu Flight Simulator d'ailleurs cette année, parce que évidemment la première chose que j'ai fait de Flight Simulator, c'est j'ai décollé de Haneda pour aller à Narita. Il y a un vrai truc de absolument charmant à rejouer jeu de train aujourd'hui en 2020, en 2021 maintenant.
Ce qu'il faut rappeler, c'est que Densha Dego, c'est un jeu qui est vénérable au Japon. Il a peut-être 20 ans, peut-être même plus.
C'est... Ça a commencé sur PS1 et c'était des gros million sellers avant.
Ouais.
Et ils en ont trop fait, ils en ont vraiment beaucoup, beaucoup fait. Et du coup, c'est un peu comme les dinosaures, ils ont disparu.
Et là, ils reviennent.
Non, mais vraiment,
ils
ont complètement disparu.
Quand j'étais au Japon, quand je vivais au Japon, il y avait même des bornes d'arcade d'Densha Dego avec des cabines de train.
C'est devenu un jeu d'arcade.
C'est vraiment quelque chose de particulier. Et ça fait partie de ces jeux, un petit peu comme Farming Simulator, dont on ne soupçonne pas qu'ils ont le succès qu'ils ont. Alors, peut-être plus autant aujourd'hui pour Densha Dego, mais certainement, il y a c'est un jeu de niche, mais un peu culte. Et la manière dont c'est modélisé, c'est tellement bien foutu, surtout aujourd'hui, avec les consoles entre guillemets modernes, si on parle de PS4, que il y a un
compatible VR, il y a un mode VR.
Ah, alors ça c'est carrément incroyable, parce que il y a vraiment cet élément nostalgie dans ces jeux-là. Pas nostalgie, mais enfin, c'est ce que tu disais, on a l'impression d'y être. Et si les gens qui aiment le Japon,
ça nous rappelle des choses.
Les gens qui aiment le Japon sont généralement fans de plus que les jeux japonais. Ils sont aussi fans de l'ambiance. Enfin, c'est quelque chose qui nous parle. Et donc, oui, je comprends tout à fait Denshade Go. Et on voit là sur les images, sur le live sur Twitch. D'ailleurs, bonjour à la chatroom. C'est vraiment, t'as même un replay de ton arrêt à la station, qui est pas un arrêt hyper sexy, hein. Tu dois t'arrêter, tu roules à 50 km/h, il faut que tu t'arrêtes sur 10 mètres.
Sur la vidéo que tu montres, il a fait quand même un arrêt à 192 cm de la ligne d'arrivée. C'est pas très bien. Mais c'est un jeu que je stream souvent, figure-toi, et je pense que je suis un des rares au monde à streamer ce jeu. Et je te remercie, Patrick, parce que tu viens de donner exactement la catchline de mon stream et même de ma vie. De niche, mais culte. Voilà, c'est exactement comme ça que je vais me définir à partir de maintenant. Je vais me faire un t-shirt
bien.
De ça.
C'est très
bien. Et donc voilà. Et alors, j'ai un deuxième jeu à soumettre dans les jeux.
Juste une question sur Deja de Go. Il a été traduit ou il est dispo qu'en japonais?
Non, il est dispo qu'en japonais. Par contre, il y a eu un jeu, il n'y a pas si longtemps, qui est sorti, je crois, l'année dernière, qui s'appelle Tetsudo Nippon Japanese Rail Sim en occidental. Il est sorti sur PS4 et sur Switch. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est au contraire, là, comme Denshade Go, comme les images que tu as pu
voir. Comment
il
s'appelle, pardon, tu peux redire le nom?
Il s'appelle Japanese Rail Sim.
Ah, d'accord. Okay.
Sur Switch. Et le truc qui est sur Switch et PS4. Et par contre, lui, il est bilingual. Il propose le jeu intégralement en anglais, avec le nom des stations redites en anglais. D'ailleurs, c'est un peu compliqué pour moi parce que, du coup, je ne sais plus exactement. Je sais plus. Et il était sorti sur 3DS avant. Voilà. Et la particularité, et là, tu vas le découvrir puisque tu montres la vidéo pour les gens du chat, c'est que c'est un jeu en FMV. C'est pas de la 3D, c'est de la vidéo, et c'est-à-dire quand t'arrêtes le train, la vidéo s'arrête. C'est assez hilarant. Mais c'est super beau, et surtout il a la particularité de ce jeu-là, c'est qu'il reprend des Denshade Go, des concepts de Denshade Go un peu plus vieux, c'est-à-dire c'est des routes un peu touristiques, quoi. C'est du vieux Japon, c'est des routes qui passent à travers les petites forêts, à travers les villes, c'est vraiment champêtre. Denshade Go, c'est un peu le truc industriel, et Japanese Rail Sim est un peu le truc un peu...
C'est quand même très très moche avec du FMV. Hein,
un peu dégueulasse, hein. Mais c'est fascinant. C'est fascinant.
Ah oui,
parce
clairement.
Imagine qu'il y a la musique. Et alors, juste pour répondre, c'est pas du tout le même délire que Train Sim World et les Train Sim, puisque Train Sim, on te fait genre... Tu es avec la souris, tu dois rentrer dans le cockpit, tu dois appuyer sur le bouton, tu dois faire... Non, Denshade Go, c'est t'appuies sur le bouton pour fermer les portes, enfin pour signaler que t'as fermé les portes, et tu démarres. C'est un jeu d'arcade quand même, c'est un jeu d'arcade où le but, c'est surtout de s'arrêter à la ligne d'arrivée dans les temps voulus. Et bien sûr, c'est le Japon, donc il faut être exact. Faut pas être en retard, faut pas être en avance. je vais sans doute en reparler dans Gaijin Dash, donc quand Gaijin Dash, on enregistre la semaine prochaine sur Game Cult, puisqu'en plus Puyo aussi se l'est acheté, je balance. Et je tiens à préciser que Denshade Go sort aussi sur Switch, donc je me demande comment ça va se manier à la manette.
On verra ça.
Et je tiens à dire, j'ai juste un deuxième jeu à soumettre.
Bien sûr.
Auquel j'ai joué. Alors, pareil que je paraphrase encore JK, parce qu'il y a un vrai travail sur le monde et sur l'immersion. C'est mon deuxième catchline que je te reprends, JK. C'est Maniteur, et je crois que Maniteur va sortir sur PS.
Il est sur PS le PS Now. Plus ce mois-ci, donc PS Plus si vous êtes PS Plus, j'engage les gens
à le prendre parce que
c'est le simulateur de requin, pour ceux qui savent pas.
C'est mon deuxième jeu préféré de l'année 2020. Alors tout le monde joue à Assassin's Creed, ok, c'est le truc mainstream et tout. C'est Assassin's Creed, mais qui se fout pas de ta gueule. Parce que c'est des petites maps. Un requin, ça va très vite. Un requin, au bout de 2 secondes, il est au bout de la map. Et le but, l'histoire est horriblement dramatique puisque t'es l'histoire dans t'incarnes un requin qui se fait tuer. T'es une femelle requin qui se fait littéralement trancher en deux par des méchants chasseurs ultra toxiques et tout. Et le petit requin, je te remercie de me donner l'occasion de parler de mon amour pour ma guitare. Et on découvre que dans son ventre, il y a un petit requin et un bébé requin, et c'est toi le bébé requin, et tu vas devoir venger ta rhum pendant tout le jeu. C'est ultra dramatique. Et pendant ce temps-là, le vilain chasseur, parce que c'est filmé un peu comme une real TV, mais en même temps un peu National Geographic sur les bords, avec des hashtags en bas, c'est à mourir de rire. Bah, le père, en fait, ça devient une espèce de Captain Ahab parce qu'il a perdu son bras et il veut se venger du requin, et au fur et à mesure il est défiguré, au fur et à mesure du jeu il est défiguré par le requin, et il y a son fils, et son fils lui c'est le genre à manger du bio, à manger du tofu et tout, et son père il lui fait mais sois un homme, c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment un sale connard. Et donc il y a ça qui se joue narrativement, et en termes de jeu bah c'est pas les putains de Vikings, ça va vite. On se moque pas de ta gueule. Il y a des trucs. C'est un jeu de cartes avec des petits trucs à récupérer sur des cartes. Hein. C'est Maniteur.
Il y a un vrai gameplay.
C'est Ghost of Tsushima.
Il y a un vrai gameplay. Tu fais référence.
C'est un gameplay de RPG, mon gars, parce que tu passes des levels et tu dois équiper des nouvelles armures qui te donnent des ailerons plus puissants. Tu dois bouffer des poissons de plus en plus grands. T'as des coups spéciaux. C'est un vrai RPG. D'accord. Et ce qui est cool. Et pourquoi je trouve qu'il y a un petit côté très japonais dans le game design, c'est que c'est le genre de jeu qui sortait avant sur PS2, genre K, qui s'appelle Mr. Mosquito, qui est un jeu de moustique, où tu incarnes un moustique qui doit terroriser une famille entière. Là, en l'occurrence, t'es un requin qui doit terroriser. Et t'as les jeunes qui sont en train de faire des rêves parties sur le bord de la plage. Tu débarques en les bouffant tous les uns après les autres. C'est à se pisser de rire. Évidemment, il y a un truc qui ressemble plus à la Nouvelle-Orléans, et puis sinon, il y a un truc qui ressemble à Marineland en pleine désolation. Ouais. Donc, tu bouffes tous les restes du Marineland. C'est.
Écoute, ça a l'air très sympa. Je vais peut-être le tester du coup.
Non, mais c'est génial parce qu'en plus, il est très drôle en fait. Les quêtes sont très très drôles. La voix off est à pisser de rire. Et puis en plus, il y a cette histoire du père qui essaie de toxifier son fils en lui disant tu vas voir, c'est ça être un homme.
C'est de
se faire. Et toi, ça va te parler, hein, tu vois, puisque toi, t'es père et que t'as envie d'inculquer à ton fils aussi le principe des jeux vidéo. Ouais. Des jeux vidéo God of War. Ah, mon fils, tu vas voir c'est d'être un
boy.
Toi, tu incarnes le prisme à l'envers. Tu es tout seul. Tu es un requin tout seul et tu dois bouffer ces putains d'humains. Et je trouve que c'est un jeu merveilleux.
Écoute, merci beaucoup. Tu vas donner l'occasion à tous ceux qui sont sur le PlayStation Plus d'aller le choper parce que c'est très appétissant, ta description.
C'est 9 sur 10 in my book. Voilà, je recommande. Super. Et puis alors, sinon, je suis ravi que tout le monde aime Yakuza 7 dont j'avais parlé dans ton émission.
Moi, c'est vraiment une question de temps qui fait que je me suis pas encore lancé dessus. Mais j'ai testé d'autres choses quand même. Pendant ces vacances, j'ai eu un petit peu de temps. J'ai quand même travaillé, on va dire, j'étais à 30% de niveau de travail, et puis il y avait le petit qui courait partout, donc c'était pas évident de trouver du temps pour jouer, mais j'ai quand même pu tester quelques trucs. Alors, traditionnel, ça ne va surprendre personne, je me suis relancé dans Destiny 2, j'ai pris énormément de plaisir pendant quelques jours, et j'ai racheté le Season Pass, enfin j'ai tout racheté sur PS5, et c'est vraiment, enfin Destiny 2 reste Destiny 2, et c'est très 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 agréable. J'ai lancé Avengers...
Je suis très content parce que tu habites pas à Stockholm, parce que là j'ai l'impression d'entendre le syndrome de Stockholm qui parle.
Pas du tout, le syndrome de Stockholm, c'est Avengers. Et en fait, ça n'a pas vraiment marché. En fait, j'ai relancé Avengers parce qu'il y a le nouveau perso gratuit qui est arrivé, Kate Bishop. Et c'est une telle tragédie, ce jeu, parce que le gameplay est toujours aussi fun qu'il l'était quand le jeu est sorti. Et je l'adore toujours
autant. C'est dégueulasse de dire ça.
Et pourtant, y a des trucs hyper originaux et sympas avec Kate Bishop, qui est donc une Hawkeye qui tire à l'arc. Et il y a des idées de gameplay vraiment intéressantes. Et pourtant, tout ce qu'il y a autour est tellement pourri, comme je le disais à l'époque. J'ai pas réussi à même... J'ai fait genre une dizaine de niveaux avec Kate Bishop et puis j'ai arrêté parce que c'est juste... ils se battent contre un cœur de bon jeu qui est à l'intérieur et tout ce qu'il y a autour est tellement mal foutu que bon voilà. Donc j'ai joué un petit peu mais pas beaucoup. J'ai aussi essayé des trucs. J'ai essayé Deep Rock Galactic dont j'ai entendu énormément de bien. Et j'ai essayé, c'est parce qu'il est sur le Game Pass, j'y ai joué une heure. Et vraiment, c'est pas mon truc, mais c'est pas autant pas mon truc que certains autres trucs, mais c'est vraiment pas mon truc. Je sais pas pourquoi, c'est l'ambiance, les nains, ce qu'ils disent, la bannière, l'esprit des nains, je sais pas, c'est genre, je m'en fous d'être sur cette planète pourrie, moi je veux, j'ai enfin l'occasion de taper sur des machins, enfin je sais pas, moi j'ai trouvé ça... J'ai pas trouvé ça.
C'est un jeu, moi j'y ai un peu joué. C'est un jeu que j'aime bien quand même, mais c'est vrai que c'est un jeu qui demande, je pense, pas mal d'investissement pour bien connaître toutes les subtilités des cartes. Et en plus c'est généré aléatoirement. Donc des fois, tu te trouves avec des trucs un peu bizarres. Je pense que ça a clairement plus d'intérêt en coop avec un micro, tu vois, vraiment avec un groupe de potes. Et c'est vrai que c'est spécial. C'est une sorte de. Alors, c'est un FPS coop à Apple Left 4 Dead où tu vas creuser des. Où en gros, tu vas garder des nains dans un futur un peu à la Warhammer 40 000 et tu vas affronter des bestioles, des grosses bestioles, quoi. Donc, c'est un mélange de Starship Trooper, de Warhammer et de Left 4 Dead, quoi. Si on veut schématiser. Mmh. Et c'est vrai que c'est assez spécial. C'est assez spécial. C'est clairement pas pour tout le monde. Mais je pense que ça se tente, mais il faut que les bonnes conditions soient réunies, quoi.
C'est ça. Et moi, j'ai pas le temps de lui accorder la chance qu'il mériterait, si vous voulez. Donc, j'ai aussi testé
Undermine. En même temps, on l'a bien vu avec Destiny 2, t'es quand même le jeu des causes perdues. Et Avengers, en plus.
Autant Avengers, je veux bien te l'accorder, autant Destiny 2, dis pas de mal de Destiny 2, mon ami.
Non, non. Au contraire, je suis très content de rencontrer un joueur qui dit « je joue à Destiny 2 » parce que souvent, c'est un truc que je pose dans les soirées pour casser l'ambiance. Je dis « alors, qui c'est qui joue encore à Destiny ?» Et je suis content enfin d'en rencontrer un. C'est fou, il n'y a pas eu de soirée l'année dernière.
Nous sommes très nombreux.
Non, mais c'est vrai qu'il y a une communauté, c'est juste que je ne les rencontre jamais.
Ouais.
Et peut-être que ça se trouve, il y a une micro-communauté Avengers et j'ai envie de la rencontrer.
Alors celle-là, à mon avis, c'est micro-micro.
Ouais, mais tu sais quoi, faut pas sous-estimer la capacité d'un studio à relancer un jeu aussi, c'est possible. Hein.
Ah, à relancer peut-être, mais tu sais, Daniel, tu connais mon amour pour le MCU.
Il part de loin, quand même.
Mais vraiment, malgré ça, les chiffres qu'on avait de concurrent players sur Avengers, il y a 3 mois déjà, ils étaient mais ridicules sur Steam.
Ouais, il y a genre 1000 joueurs. J'ai la news jeuxvideo.com devant moi. En fait, je cherchais pour savoir si la version PS5 a été... a été lancé, en fait pas du tout, ils l'ont retardé à 2021, donc j'ai aucune raison pour l'instant de le...
Il y a une version... t'as raison.
Et le truc, c'est qu'en plus j'y jouais sur PS4, alors je peux te dire que c'était l'hélic arrière du Shield, hein. À chaque fois que je bootais le jeu, j'entendais vraiment les murs trembler.
Les murs qui vibraient. Tant pis pour Avengers. Tant pis pour Avengers. J'ai joué aussi à Undermine et ma réflexion, c'est... Alors, Undermine, c'est un petit roguelike, ou roguelite plutôt, qui est plutôt sympa, vu de dessus, un petit peu à la Binding of Isaac, mais c'est un mélange entre Binding of Isaac et Zelda, peut-être. Je ne sais pas vraiment comment le décrire. On va de plus en plus loin dans la mine, et il est aussi sur le Game Pass, et on peut avoir, roguelite classique, quoi, des améliorations. Il a l'air sympa, mais c'est vraiment le genre de truc. Il y a tellement de roguelite beaucoup mieux, et sans même mentionner le nom de Hades, que je me suis dit, si je veux jouer à un jeu, c'est pas celui-là que je vais jouer, parce que il n'y a pas de raison de jouer à un truc moins bien, même s'il est bien. Donc, peut-être que certains apprécient.
C'est vrai que c'est terrible, mais le roguelite, c'est vraiment devenu le genre saturé de l'indé, et si t'es pas exceptionnel, tu t'es invisible, quoi.
Il y a un autre jeu qui surnage dans le jeu indé, et je pense que les roguelites ont pris le pas dessus, c'est les Metroidvania, en fait. Pendant des années, on a eu des Metroidvania à ne plus savoir qu'en foutre, et là, maintenant, les roguelites ont pris la place. Je me demande quelle va être la prochaine étape.
Ça, c'est une très bonne question.
Le prochain genre à la mode.
Attendez, je suis en train de... Il y a quelqu'un avec 6 viewers qui m'a raidé, donc il faut que je le remercie, évidemment. D'habitude, je ne le fais pas, mais 6 viewers, c'est très gentil de sa part. Donc, Undermine, c'est vraiment un roguelite. Ça me fait penser à c'est des graphismes pixel art, Enfin bon, bref, peu importe. Undermine, il est sur Game Pass. Je suis sûr qu'il y a des gens qui l'apprécieront, mais c'est pas forcément le jeu qu'on retiendra. Ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez un truc de ce genre-là, c'est pas tout à fait la même chose, mais Disco... pas Disco, qu'est-ce que je raconte ? Children of Morta, qui date un petit peu maintenant, qui est aussi sur le Game Pass, je pense vous procurera beaucoup plus de plaisir. Et les deux derniers trucs dont je voulais parler, Streets of Rage 4, je l'ai retesté suite aux louanges qu'en ont chanté J.K. et Dany. Et je crois que c'est pas pour moi. Hein. Je suis désolé, j'ai honte, mais je crois que c'est pas pour moi.
Ah, avec un jeu avec un gameplay, je comprends. Hein, c'est vraiment, c'est vraiment dégueulasse de lui conseiller ça, J.K. Je sais pas comment.
Écoute, face à des gens qui aiment ni Destiny ni Avengers, donc voilà.
Alors, et en plus, un jeu qui se joue à deux, et tu vois bien que.
Moi, Patrick, je suis tout seul.
Il est seul à Stockholm, il est isolé.
Helsinki, pas Stockholm, ça suffit. Hey, alors, attends, justement, je vais te faire mentir. Mon dernier jeu, tu sais ce que c'est Katana Zero, qui est également sur Game Pass lui aussi. Et là, pour le coup, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de gameplay.
Très bien.
Voilà.
Non, c'est vrai.
On ne peut pas non plus inviter quelqu'un sur ton canapé pour y jouer non plus avec toi. C'est Streets of Rage, c'est un peu un truc de faut jouer en multi, c'est ça qui est rigolo.
Je comprends. Je crois qu'il ne plaît pas dans Streets of Rage en 3 mots, hein, mais.
Ce que j'aime pas dans Streets of Rage, c'est pas que je l'aime pas, c'est que j'ai l'impression que c'est Streets of Rage et que c'est un jeu qui a 20 ans. Et oui, il y a des petites améliorations, il y a des petits changements, mais je suis pas. Comment dire ? J'ai pas l'impression d'avoir un jeu moderne. Et c'est juste... Moi, je suis pas très nostalgie, donc... C'est juste pas un truc qui me parle, quoi.
Ça a peut-être juste que 30 ans, en fait, loin. Streets of Rage. Ça a 30
ans. Oui, 30 ans, on est d'accord.
Non, mais je comprends aussi qu'on puisse ne pas aimer les beat 'em up, hein. C'est aussi ça, hein. Bah, alors que moi...
C'est un beat 'em up qui a 30 ans. Mais attends, J.K., parce que c'est quand même l'un des jeux de l'année, J.K., tu voulais...
Ouais, mais le truc
j'en ai déjà parlé. Moi, je trouve que c'est une lecture hyper moderne en fait de Street of Rage, et ils sont allés au-delà en fait de la simple nostalgie parce que ils ont réussi à complexifier ce qu'il faut le gameplay tout en gardant ce côté hyper instinctif. Et en plus, je trouve que visuellement, c'est artistiquement parlant, c'est un jeu qui est dingue.
Faudrait que j'y joue plus. Vas-y, Daniel, tu voulais ajouter quelque chose?
Je voulais juste dire un truc, c'est que pour le truc auquel j'ai le plus joué en cette fin d'année. C'est une nouvelle console et c'est la console de l'année, hein, parce que faut le dire, la PS5 on s'en bat les steaks, la Xbox encore plus, ou au moins autant, pour pas faire de polémique, mais l'Astro City Mini sorti par Sega j'ai pas la boîte devant les yeux, mais genre 45 jeux dont une dizaine de jeux Sega qui sont jamais sortis dans le commerce, dont Golden Axe Return of Defader, dont Arabian Night, dont Dark Age, dont des jeux assez modernes en fait qui sont sortis sur système sur les systèmes avancés de Sega. Voilà, ça c'est la convivialité comme je l'aime. C'est la convivialité du tu prends un stick et tu joues dans ton salon sur ta télé avec tes potes. C'est vraiment super. Pour moi c'est la machine de l'année pour moi.
Écoute, je te laisse la paternité de cette affirmation.
C'est la machine de l'année. Et tous ceux qui me diront la PS5 et la Xbox, je dis non, Astro City Mini, les gars. Astro City. Et d'ailleurs, j'ai acheté la manette et le pad et le joystick pour être sûr qu'ils aient de l'argent pour en faire une deuxième derrière. Voilà.
Astro City, c'était le type de borne d'arcade que faisait Sega à l'époque.
Ouais, vers le début beaucoup, des années 90, beaucoup, ouais.
Donc l'autre truc dont je voulais parler, c'était Katana Zero, qui est un jeu, comment dire, c'est peut-être un, est-ce qu'on peut dire Hotline Miami en pixel art, donc c'est du pixel art en platformer 2D avec énormément d'effets des années 80 peut-être, avec des effets de cassettes vidéo. J'ai été très surpris parce que je m'attendais à un certain type de jeu. Et on est effectivement dans ce type de jeu platformer très précis avec un samouraï, un type avec un sabre qui doit pas rater son coup et qui peut recommencer 1000 fois pour réussir le niveau. Mais ce qui m'a surpris, c'est tout ce qu'il y a autour, parce que la manière dont l'histoire est racontée, la manière dont l'ambiance est établie, m'ont vraiment plu. C'est un jeu qui, je crois, cache un petit peu sa profondeur. Je trouve que le pixel art, j'aurais aimé le voir pas en pixel art, parce que y a des, ça devient difficile de faire du pixel art qui est pas... comment dire, qui est pas... qui nous lasse pas. Même si c'est beau en pixel art, il y a un peu trop d'effets, je trouve. Ils ont poussé un petit peu le curseur trop loin. Mais il n'empêche, j'ai été très surpris de voir tout ce qu'il y a autour du gameplay du jeu et qui est vraiment poussé, qui est vraiment poétique, séduisant et très, très bien écrit, très bien conçu. Donc, j'imagine que c'est un jeu que tu as testé, toi, J.K.
Non, c'est un super jeu, ouais, j'avais fait à l'époque, je l'avais fini, et c'est un super jeu, c'est vraiment... Alors, c'est du Die and Retry, mais comme tu disais, à l'Outline Miami, donc il n'y a pas cette frustration, parce que tu recommences immédiatement, les niveaux sont quand même... Les checkpoints sont très, 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 très fréquents, donc c'est pas... c'est un jeu difficile, mais qui n'est pas frustrant, en fait, et qui a une histoire, effectivement, qui est étonnamment intéressante, et au final, en fait, à la fin du jeu, j'y jouais autant, voire plus pour l'histoire que pour le gameplay, qui... À la fin, commence un peu à être redondant, donc c'est relativement court, mais je trouve que c'est la bonne durée de vie. C'est pas un jeu qui est trop long. C'est une de mes bandes son préférées de ces 3-4 dernières années également. La bande son est formidable. Donc si vous aimez l'électro, alors c'est pas complètement de la synthwave parce que ils ont évité de tomber dans ce piège, mais c'est une bande son électro qui est vraiment très cool.
On est d'accord. C'est un jeu qui était sorti en 2019 et qui l'a encore et sur Game Pass. Bon, bah écoutez, c'est à peu près tout pour nos jeux des vacances. Il y en avait plus que je pensais. Et du coup, on va avancer plus vite sur les news de ces deux dernières semaines. D'une part, le petit point CD Projekt, il y a un procès des investisseurs qui a été lancé contre CD Projekt, principalement pour ce qu'ils avaient dit qui s'est révélé faux, donc ils ont trompé les investisseurs en disant que les jeux sur console PS4, Xbox One étaient finis et tournaient étonnamment bien, ce genre de choses. Sony, et là, cataclysme, Sony a supprimé, a retiré Cyberpunk 2077 de la vente, ce qui est, je crois, assez sans précédent. Ils ont annoncé qu'ils feraient des remboursements sans poser de questions. Microsoft a d'ailleurs fait la même chose sans retirer le jeu du store, parce qu'ils avaient quand même un gros partenariat commercial, mais ils remboursent sans poser de questions pour ceux qui ne sont pas contents. On en parlait beaucoup, justement, avec Pouillot il y a 3 semaines, 1 mois, et c'est un petit peu compliqué de savoir où on met... si on se laisse emballer par nos impressions, et on disait beaucoup de choses sur les versions PS4 et Xbox, justement, dans l'épisode d'il y a 3 semaines, 1 mois, et 4 jours plus tard, Sony a annoncé qu'il retirait le jeu du store numérique, bien sûr. Ça m'a un petit peu tranquillisé parce que je me suis dit, bon, en fait, oui, notre jugement sur ce sujet qui est hyper controversé, hyper débattu et qui déchaîne les passions, là, c'est le cas de le dire, n'était pas forcément erroné puisque Sony l'a carrément retiré du store, ce qui est quasiment... Peut-être que c'est arrivé pour un ou deux petits jeux auparavant, mais comme ça, jamais avec un aussi gros jeu que Cyberpunk. Tout ça pour dire que ça n'a quand même pas changé les choses pour CD Projekt, qui a réussi à en vendre 13 millions malgré les remboursements, etc. Enfin, 13 millions à la date du 22 décembre. Donc bon, au final, d'un point de vue financier, c'était pas une erreur pour eux de le sortir à ce moment-là, je crois, quoi qu'il arrive. Leur image, c'est autre chose, mais 13 millions, rendez-vous compte, c'est un chiffre monumental. Et... on ne peut pas dire que les gens ne savaient pas. Au lancement, peut-être. Maintenant, tout le monde peut se faire rembourser sans problème. Les 13 millions de copies, c'est des gens qui les veulent. Donc, voilà. Bon.
Ou qui ont la flemme de remplir les certificats, le papier.
De faire la demande de remboursement, mais bon.
Et je te dis ça parce que j'ai 4 manettes Switch sur mon bureau et elles attendent toutes d'être envoyées chez Nintendo.
C'est pas la même chose. J'ai la grosse
flemme de trouver des enveloppes à bulles.
C'est sûr. Mais là, t'as même pas besoin de trouver d'enveloppe. Tu dois juste, je sais pas quelle est la procédure à faire, mais c'est des jeux numériques. Donc t'as juste besoin de demander.
J'aime pas écrire les mails.
Mais je suis même pas sûr qu'il faille écrire un mail. Hein. À mon avis, tu vas sur le store, tu vas dans les. Enfin bon, bref, je sais pas. Mais...
Parce que s'il faut, est-ce qu'il faut parler polonais pour se faire rembourser ça?
Bien sûr, mais ça, tout le monde parle polonais. Tu parles pas polonais, toi?
Il y a Moby et pas Paul Ske.
Très bien.
Botoyes Bazotrud.
Tu voulais ajouter quelque chose?
Ouais, non, je disais juste qu'il faut quand même, ce qu'il faut préciser, c'est que depuis sur PS4 et Xbox, le jeu a été quand même bien patché. Alors, c'est pas encore parfait, c'est pas encore l'expérience que tous les joueurs attendaient, tout ça, mais c'est jouable déjà. Et enfin, le jeu est, aujourd'hui, le jeu fonctionne quand même beaucoup mieux que ce que c'était au lancement. Et même sur Xbox et PS4.
D'accord.
Après, moi, c'est vrai que ça m'inspire surtout beaucoup de tristesse sous cette affaire, parce que ça dessert déjà un jeu que je vous ai dit qui, dans le fond, est sur plein de points et est vraiment formidable. Et puis, c'est hyper triste pour les équipes de dev qu'on suait du sang et des larmes pendant des années, pour au final se retrouver avec un jeu qui a une image déplorable, qui est, je trouve, pas forcément mérité. Alors après, c'est la faute à quoi? C'est la faute à l'exécutif, qui ont voulu le sortir tout de suite. Qu'ils auraient peut-être dû retarder la sortie des versions PS4, Xbox, mais on peut comprendre aussi que c'était extrêmement complexe. Enfin,
ça, c'est... En tout cas, ils n'en auraient, pas vendu 13 millions s'ils avaient retardé la sortie des consoles.
Ouais. C'est clairement, pour le coup, c'est un cas qui, je pense, va faire jurisprudence, et je serais curieux de voir comment ça va se passer. Par rapport à d'autres productions dans les années à venir, je pense que voilà, il faut en tirer aussi les leçons de ce lancement catastrophique. Mais ce qui est
intéressant, JK, c'est que
du jeu, quoi. Vas-y, ouais.
JK, ce qui est intéressant, c'est par rapport à toutes les phrases que tu as dit, on peut les transposer, on peut remplacer le mot cyberpunk par vaccin, et c'est exactement la même chose. C'est mauvaise organisation, problème de l'exécutif. Genre, tous les mots, on peut exactement les transposer.
Bien sûr, oui. Ouais.
Par contre, je veux juste dire un truc. J'ai rien à dire sur Cyberpunk. J'y ai pas joué. Je crois que moi, ça m'a fait rire de voir des gens qui ont trouvé des gods dans les premières versions, de voir les vidéos de bugs et tout. Mais j'ai pas envie de, comme toi, parce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être même qui ont pas joué, mais qui sont là pour bâcher juste pour le plaisir de faire rigoler. Et je comprends l'instinct de rire des gens, mais aussi, faut respecter aussi, il y a tous ces gens qui continuent de travailler dessus et qui vont travailler encore pendant 4 ans dessus.
Non, bien
pour
sûr,
réparer, mais enfin, ça a l'air, ça a l'air
y a encore,
d'être,
y a encore Daniel, ça n'empêche pas l'autre.
Bouillabaisse, quoi.
Y a, voilà, c'est ça.
Ça a l'air d'être du borge de programmation, quand même.
Bref, écoutez, on ne va pas refaire le chapitre sur Cyberpunk. Le procès et les 13 millions, c'est les deux infos que je voulais lancer. Mais du coup, Daniel, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est 13 Sentinels Aegis Rim? Je ne sais pas si c'est un jeu auquel tu as joué, mais écoute, j'en entends parler depuis des mois. Il a fait 300 000 ventes et je ne sais même pas ce que c'est. Enfin, si, je sais ce que c'est, mais...
Écoute, c'est un jeu développé par VanillaWare et sorti par... je te fais tout de tête, hein, parce que je n'ai pas préparé. Et sorti par Atlus, donc Sega, et qui en plus a eu la chance d'avoir une localisation en français, figure-toi, ce qui est assez rare pour un jeu d'aventure. Et c'est un jeu d'aventure ultra visuel qui se déroule en side-scrolling, mais qui en même temps, ça c'est le syndrome le Japon, qui en même temps s'intercale des séquences de stratégie en temps réel cyberpunk, aurais-je l'audace de dire ça. Où tu pilotes des espèces de petits navires, de petits vaisseaux face à des kaiju venus du futur. Et alors, ce qui est intéressant dans Aegis Rim, 13 Sentinels, c'est qu'il y a 13 personnages, et ces 13 personnages vont se croiser à travers plusieurs époques du Japon. L'histoire commence dans les années 80, mais en fur et à mesure, tu vas voir qu'il y a aussi des personnages qui sont en 1945, donc à une période clé du Japon. S'il en est, il y en a qui sont en 2020, donc là où nous sommes, et il y en a qui sont dans un futur très lointain. Et ce qui est intéressant, c'est que ça aurait pu être un jeu d'aventure très basique, mais en fait, c'est ultra novateur et surtout, c'est ultra attachant. Parce qu'au fur et à mesure que tu joues les personnages, tu accèdes à des nouvelles séquences de RTS. T'es pas obligé de jouer tout. Pour finir, tu dois plus... tous les jouer, mais t'es pas obligé, tu fais exactement le jeu dans l'ordre que tu veux, tu peux suivre un personnage autant que tu veux et puis ensuite rebasculer sur quelque chose. C'est un peu un jeu d'aventure à la carte, c'est très très bien conçu, évidemment c'est VanillaWare, donc il y a une patte graphique unique, et ça je dis bien unique, il n'y a aucun jeu qui ressemble à ça. C'est écrit et réalisé par Georges Camitani, à qui l'on doit Dragon's Crown et puis les autres jeux VanillaWare. C'est absolument unique et tu devrais y jouer parce que s'il n'y a qu'un seul jeu d'aventure à faire de cette année, je pense que c'est celui-là.
Il est sur quelle plateforme ?
Il est uniquement sur PS4 et sur Vita, mais évidemment la version Vita. je suis même pas sûr. Est-ce qu'il est sorti sur Vita ? Non, je crois qu'il a été annulé sur Vita. Il est sorti, il est sorti sur PS4.
PlayStation 4, en tout cas, c'est ça qui intéressera. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui gardent leur Vita. D'ailleurs, j'ai la mienne dans un tiroir, mais effectivement. C'est pas forcément la version qui sera la plus vendue. Bah ok, merci.
C'est absolument unique. Il y a aucun autre jeu qui ressemble à ça. Ça essaye beaucoup de choses. Ça va dans énormément de directions. Mais par contre, tu ne t'ennuies jamais.
Très bien. Bah merci beaucoup.
Et 20 heures et c'est fini. C'est un jeu d'aventure. En 20-25 heures, tu l'as platiné direct parce qu'évidemment, t'es un peu obligé de tout faire pour gagner. Voilà.
13 Sentinels Aegis Rim, merci beaucoup. Bon bah écoutez, on va passer sur les news suivantes un petit peu plus rapidement. D'abord, Sony a vendu 3,4 millions de PlayStation 4, ou en tout cas livré 3,4 millions de PlayStation 4 en un mois, ce qui est un record. Donc ceux qui pensent qu'ils n'ont pas produit beaucoup de consoles, voilà une raison de plus de débunker cette légende. Et une news de Nintendo qui a acheté Next Level Games, c'est le studio qui avait fait Luigi's Mansion 3. C'est pas fréquent pour... Pardon, je dis PS4, c'est PS5 évidemment, hein, je me suis trompé, mais vous aviez compris, les PS4, au contraire, la plupart des modèles sont en fin de production, ce qui ne veut pas dire que la PS4 est en fin de production, c'est juste que la PS4, il n'y aura plus qu'un ou deux modèles et pas les 70 différents, les blanches, les pros, les machins, enfin, il y a tout, je pense, la Slim et la Pro qui continuent en noir. Mais donc, Nintendo a racheté Next Level Games. C'est pas forcément la première fois qu'ils s'intéressent à des studios third party. Là, ils en rachètent un. J'imagine que c'est arrivé par le passé. Ils ont beaucoup de studios avec lesquels ils travaillent de manière très rapprochée. Est-ce que c'est possiblement le début d'une tentative de Nintendo de gonfler son parc de jeux et de développeurs parce qu'ils sentent venir les changements poussés par Microsoft qui rachète à tour de bras ou alors est-ce que c'est juste que ce studio était adapté au rachat je vous avoue que je saurais pas très bien dire, mais j'ai pas l'impression que ça soit très fréquent du côté de Nintendo, donc je me demande si c'est pas peut-être
alors, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Je pense notamment à Monolith Software, à qui l'on doit les Xenoblade, qui était un partenaire avant et qui ensuite est devenu un vrai éditeur, un vrai first party. Le truc, c'est que Nintendo s'intéresse souvent aux éditeurs avec lesquels il travaille. Et surtout qui sont polyvalents en fait. Monolith est très polyvalent puisqu'ils font les Xenoblade, mais en même temps ils ont participé à Zelda en fait, à Breath of the Wild. Ils ont été un des studios qui a filé un bon coup de main à l'open world de Breath of the Wild. Et eux, en l'occurrence, Next Level Games, ils sont polyvalents en fait, parce qu'ils ont fait Punch-Out pour Nintendo, mais ils ont fait aussi le jeu Captain America, figurez-vous, sorti sur PS3 et Xbox à l'époque, et ils ont fait les Luigi's Mansion. Donc c'est un bon move pour Nintendo en fait. C'est surtout pour une manière de, je pense, de récompenser un peu leur le travail accompli quand même. Souvent ça, Monolith, c'est la même chose, hein. C'est des gens avec qui ils avaient beaucoup travaillé. Nintendo ne rachète que les studios avec qui ils travaillent énormément. Donc c'est un... Je sais pas, est-ce que c'est un move qui les avantage fiscalement ou est-ce que c'est un move qui...
Thomas dans la chatroom nous dit que Next Level cherchait à se vendre. Nintendo était, c'est sûr que ça a dû être un facteur, mais Nintendo n'était pas obligé de les acheter non plus. C'est pas qu'ils aient,
faut pas oublier,
qu'ils soient essentiels pour la bibliothèque de Nintendo, quoi.
Et Nintendo avait quand même ce passif d'avoir historiquement énormément d'éditeurs tiers, et puis au bout d'un moment ils en avaient beaucoup moins dans les générations passées. Donc là c'est un peu avec la Switch, ils ont quand même une opportunité quand même de se requinquer là-dessus, quoi, d'avoir quand même des éditeurs qui, bah, on pense à Monster Hunter Rise, montré à 15h tout à l'heure, Monster Hunter Rise qui va arriver, c'est l'occasion quand même de se refaire un parc d'amitié, en sachant qu'il y a des éditeurs qui vont sans doute disparaître, il y a des éditeurs qui vont être moins présents, peut-être Bethesda, tu vois, par exemple, de tête.
Ouais, moi,
Warner Bros, ils étaient à vendre, alors tu sais pas, et Warner Bros, c'est un gros développeur, en fait, on s'en rend pas compte, mais tous les Lego, les jeux Lego et tout ça, c'est eux. Et s'ils disparaissent...
Les Lego, les Batman, les Injustices, les... tous ces trucs-là, ouais, c'est... Voilà, il y a le Harry coup, Potter qui arrive.
Et franchement, c'est pas con, c'est vraiment pas con. De toute manière, Nintendo, ils font pas des mouvements cons. Ils peuvent nous avoir en vendant des cartes, des jouets, mais ils font pas de mouvements débiles. Hein. C'est vraiment, c'est très pensé comme stratégie.
Bah, à voir si c'est le début d'une série, hein, possiblement. J'imagine qu'ils seront plus mesurés que Microsoft de toute façon. Mais... d'autres news, Riot Games a annoncé par la voix de Greg Street qu'ils étaient en train de travailler sur un MMO, mais alors c'était juste dans un tweet, ce qui était un petit peu bizarre, mais bon, Riot Games est en train de travailler sur un MMO. Katsuhiro Harada est en train de travailler sur le projet le plus cher de l'histoire de Bandai Namco. Harada, c'est le producteur bien connu de Tekken, de la série des Tekken. Mais il ne fait pas que ça, il travaille aussi sur un gros projet chez Bandai Namco. Et je serais très curieux de voir ce qu'il fait. C'est un personnage marrant.
C'est le prochain Smash Bros.
Possible. Outriders, c'est un jeu dont j'entends pas mal parler en ce moment. C'est un Destiny-like, hein, donc peut-être que YouTube me le sert un petit peu plus qu'aux autres. Mais c'est un jeu de Square Enix qui s'attaque un petit peu à cette catégorie des jeux services. Il a été décalé, il était censé sortir le 2 février, il sortira le 1er avril. Et bon, évidemment, tout le monde regarde Square, c'est People Can Fly qui est un développeur de TPS bien connu. Ils avaient fait notamment des Gears et Bulletstorm.
Ouais.
Bulletstorm, et c'est pas des Est-Européens, People Can Fly,
je me dis, ils sont polonais.
Voilà, ouais, c'est ce que je pensais.
Ouais. C'est un jeu polonais, il me semble. Ouais,
ils ont une grosse culture du FPS, avec, enfin, il y a toute
une histoire. Ils avaient fait Epic à l'époque, et maintenant, ils sont redevenus indépendants. Ouais. Et effectivement, à la base, ils avaient fait Painkiller, donc qui était une sorte de fast FPS hyper bourrin. Et après, il y a eu Bulletstorm et Gears of War Judgment. Donc, ils sont voilà, spécialisés plutôt dans le boom-boom. Voilà, ouais. Dès qu'il y a des flingues, ils connaissent bien leur sujet.
Et Painkiller, je crois que People Can Fly reste, comment dire, dans le cœur des joueurs de cette période, rien que pour Painkiller, peut-être le premier. Ils en ont sorti des tonnes après qui n'étaient pas forcément aussi bien ou qui évoluaient pas beaucoup. Mais Painkiller, c'était ceux qui y ont joué, je crois, s'en souviennent encore. Bon, Outriders, on verra ce que ça donne. C'est une ambiance un petit peu science-fiction en third person. Bref, c'est en avril. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Star Citizen. Je sais pas. Je sais plus comment traiter Star Citizen, en fait. Alors, ils ont raté la date de sortie de la bêta pour la campagne solo, Squadron 42. Ils ont juste dit que bah, ils ne savent pas quand ils le sortiront. D'un côté, je me dis, personne ne force les gens qui donnent de l'argent à Chris Roberts pour faire Star Citizen ou autre chose. Personne ne les force aujourd'hui. Et ils continuent à donner énormément d'argent. Et d'un autre côté, je me dis, ouais, mais quand même, je sais pas, il y a des trucs, c'est tellement... ça va tellement loin dans le... J'ai pas envie de dire arnaque, parce qu'on sait pas, ça se trouve, dans 2 ans, il va sortir et ça va être le truc le plus ambitieux de l'histoire du jeu vidéo et ça va être un jeu extraordinaire avec une composante solo, une composante multi, peut-être, mais... il n'empêche, j'ai du mal, quoi. Je sais pas quoi en dire et je sais même pas quoi en penser. C'est rare, hein, que je sache pas quoi en dire, mais là,
moi, je veux juste dire un truc, c'est que
c'est un problème hyper complexe.
Vas-y, JK, on donne la parole à Daniel après.
Non, allez, vas-y, JK.
Ouais, non, je disais juste que c'est un problème hyper complexe. Enfin, c'est un sujet hyper complexe, Star Citizen, et ça nourrit énormément à la fois de fantasmes, à la fois de haine, de moquerie, et voilà. Et je pense que si on n'est pas un minimum dedans, si on s'intéresse pas vraiment beaucoup à la communauté, à ce qu'il y a dedans, on n'arrive pas. C'est vrai que il y a beaucoup d'incompréhension en fait sur ce jeu. Et je dis pas ça pour le défendre, attention. Hein. Mmh.
Mais c'est un jeu qui a quand même la campagne Kickstarter. Elle s'est faite en octobre 2012, la campagne Kickstarter. Ça fait 9 ans.
Ah ben, non, ouais.
Alors, moi j'ai découvert Star Citizen sur le tard. En fait, j'ai vu le documentaire en 7 parties qui est sur YouTube et que je recommande absolument de voir, qui raconte, et en plus avec des faits, et il étaye énormément son truc. ce qui est le truc le plus incroyable de notre de cette décennie en termes de financement participatif. C'est vraiment incroyable. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que c'était des jeux Chris Roberts. C'est un mec dont je jouais aux jeux vidéo quand j'étais gamin, quoi. Strike Commander et tout. Et maintenant que je vois les dessous, parce que le documentaire revient et sur la création de Wing Commander et sur Strike Commander, et je me dis, ah merde, en fait, je comprends exactement ce qui allait dans les jeux et ce qui allait pas dans les jeux et qui, pourquoi c'est devenu un truc génial. Honnêtement, je recommande vraiment ces documentaires si vous avez l'occasion.
Tu sais comment ils s'appellent?
Non, Sartizen Documentary, je sais plus, c'est en 7 parties.
Faites une recherche.
Et honnêtement, chaque minute, c'est de l'hydromel. C'est vraiment, c'est super. Et ceux qui y croient, comme disait mon ami qui habite en Pennsylvanie, un swing state, il dit, je ne juge pas. Voilà, je ne juge pas.
Très bien. Autre chose, oui, Spotify est disponible sur l'Epic Game Store. Et en soi, ce n'est pas une grosse news, mais le fait qu'une application qui n'est pas un jeu soit disponible sur l'Epic Game Store, ça signale le fait que ça va devenir l'Epic Store et que ça va s'attaquer à énormément de choses, pas que les jeux. Et je pense que ça explique aussi beaucoup pourquoi ils sont tellement... à l'attaque contre Apple sur l'Apple Store pour iOS. À mon avis, ils ont des ambitions qui dépassent le gaming chez Epic. Comme on le dit souvent, Tim Sweeney, il n'a pas les dents qui rayent le parquet. Elles ont traversé deux étages et elles sont allées poignarder les gens qui étaient en dessous. Et à mon avis, c'est quelque chose d'énorme qui est en train de se préparer là, petit à petit. Quoi d'autre? Le Xbox Game Pass a pour ce mois-ci, il va y avoir Injustice 2, Torchlight 3, PES 2021, donc des choses sympas. Et puis si on peut dire deux mots sur Twitch, d'une part, ils sont en train de faire des règles contre le harcèlement. Il était temps, on pourrait s'étendre largement sur le sujet et c'est seulement le début et c'est trop peu peut-être, mais il était temps. Je veux dire également que... on va même pas parler de PogChamp, mais sachez qu'il s'est passé des trucs suite à... Gutex a dit des trucs et PogChamp a été retiré de Twitch. Et surtout, non seulement Minecraft Earth a disparu, enfin est en train de disparaître, le 30 juin ils vont fermer parce que les gens sortent pas et jouent pas à ce clone de Pokémon Go, mais surtout Farmville... Et désormais fermé. Et ce jeu qui a peuplé les années 2010 est un jeu dont je ne sais pas si on le regrettera, mais en tout cas, comme le dit très bien l'article du New York Times auquel je fais référence là, ça aura laissé... C'est un petit peu l'origine de toutes les pratiques de growth hacking, de monétisation, ce type de jeu-là, Farmville, et reste l'un des morceaux du jeu vidéo des années 2010. Alors, en bien, en mal, je vous laisserai juger, mais on lui dit aujourd'hui au revoir. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait encore des gens qui avaient l'air d'y jouer. A priori, c'était Zynga, c'est ça, hein, Farmville.
Ouais, tout à fait.
Écoute, non, mais c'est, pour le coup, c'est un jeu, quoi qu'on en dise, c'est un jeu emblématique. Alors, tu dis les années 2010, pour moi, c'est même avant, mais peut-être que je me trompe. Mais
c'était 2009, je crois.
Ah, donc oui, d'accord, c'est plus les années 2010 que ça a marqué. Mais c'est un jeu emblématique, malgré tout, du jeu vidéo de cette époque, quoi.
Ouais.
C'est vrai.
Et voilà pour nos news. On aura fait un petit tour un petit peu rapide. On a pris beaucoup de temps sur d'autres choses, mais c'était pas plus mal. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à l'émission. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part? Commençons par JK et puis je vais vous libérer parce que vous devez aller manger quand même. JK, où es-tu sur Internet?
Alors moi, tu me connais, tu me connais, Patrick, tu sais bien que j'ai mangé avant, donc ça va. J'ai
très bien.
Bref, le professionnel du patron du Dot Patrick.
C'est ça, exactement. Non, ça n'a pas changé hein, depuis un mois. C'est toujours sur ZQSD. Actuellement, on fait des petits formats, plus courts à deux à distance, mais ça reste très très cool. Avec ça rappelle un petit peu After Eight. Hein. Désolé, Daniel, on vous a un peu copié. Également sur jeuxvideo.com pour des sujets tech hardware et sur le journal du hardware tous les vendredis à 16h30 sur le stream. Voilà.
Magnifique. Camouille, où te retrouve-t-on sur Internet?
Eh ben, d'abord sur Twitter à Camus Robotics. JK, je viens de recevoir le PayPal pour l'utilisation du copyright d'After Eight. Donc vraiment, je te remercie. on peut me retrouver évidemment dans le podcast After Eight, Super Ciné Battle et tous les autres podcasts. Et je produis les autres podcasts du RPU. Gaijin Dash, évidemment, avec mes compères Puyo et Greg sur Gamekult. On peut aussi me retrouver, et alors attention, c'est tout nouveau, j'ai ouvert un compte à TikTok, et alors j'ai fait mon première recette de cuisine sur TikTok, j'ai fait une recette de borscht, que j'ai aussi mis sur Instagram, c'est totalement confidentiel. Comment tu disais déjà, c'est de niche mais culte, voilà, je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut définir ma cuisine. Et voilà pour les gros sujets, et bien entendu, twitch.tv/CamusRobotics, qui est un peu mon petit fief. Le soir, en général, je stream des jeux parfois inhabituels. En ce moment, je suis en pleine découverte, figurez-vous, de Hitman. Je suis passé complètement à côté d'Hitman, et donc ça me fait très plaisir de découvrir un jeu fait pas loin de chez toi, Patrick. Et voilà, Densha Dego aussi, beaucoup de Densha Dego. Donc voilà, twitch.tv/CamusRobotics. Si le cœur vous en dit, l'ambiance est bonne, la communauté est saine. Voilà, c'est à peu près tout. Et je remercie à tous les auditeurs et tous les gens qui envoient des gentils messages en ce début d'année. Je vous renvoie la même. Je vous souhaite le meilleur pour 2021 et pour la future année chinoise, je précise.
Les liens vers vos comptes Twitter seront dans les notes de l'émission. Je précise aussi que le documentaire dont tu parlais s'appelle Sunk Cost Galaxy et vous pourrez le trouver sur YouTube. Je mettrai le nom dans les notes de l'émission. Et pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube la dernière vidéo sur la Switch 2 et pourquoi je pense qu'on risque de la voir cette année et ce qu'elle pourrait être, évidemment. Vous pouvez aussi également soutenir l'émission sur patreon.com/rdvjeux avec cette promo bonne résolution. Si vous avez envie de prendre une bonne résolution qui est de soutenir les émissions que vous appréciez, bah évidemment, allez voir du côté de Camouille d'une part, mais après ça, s'il vous reste encore quelques sous, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux et profiter de cette promotion incroyable, exceptionnelle, qui ne durera pas. Donc c'est le moment, et ça vous permettra, quand vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le petit bol à l'entrée, quand ça fait cling et que vous pensez à Patrick, parce que maintenant vous avez ce moyen mnémotechnique, cette réponse pavlovienne qui vous est imprimée dans l'esprit, eh bien au lieu de vous dire « Ah, il faut que je pense à peut-être soutenir Patrick », eh bien non, là vous vous direz « Ah, mais quel bonheur! Chaque jour, rendez-vous compte, quand vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés, si votre journée est complètement grise, si vous passez une mauvaise journée, eh bien là, vous mettez les clés dans le bol et tout à coup, tout se devient ensoleillé, tout est merveilleux et vous dites « Je soutiens Patrick, tout va bien dans ma vie ». Donc, patreon.com/rdvjeux pour tout ça. Je vous remercie tous.
J'ai envie de mettre de la soupe dans mon bol, là.
Je vous remercie tous. Je vous fais de grosses bises et on se retrouve sur Switch. On se retrouve sur Twitch et dans les podcasts, comme toujours, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.